I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour Soir Info jusqu'à minuit en direct sur CNews. Au sommaire, notamment ce soir, les jeunes filles de plus en plus nombreuses à franchir les portes des établissements scolaires vêtues d'abaya. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a réuni les recteurs hier pour faire le point, alors que le port de cette robe longue, ample, se multiplie dans un certain nombre d'établissements. Pourtant, Pape Ndiaye avait refusé en novembre dernier de dresser une liste des tenues autorisées ou non à l'école. Alors, faut-il interdire l'abaya? Nous répondrons à cette question avec les invités dans un instant. Deux jours après sa rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, la maman de Lindsay était l'invitée de Brigitte Macron aujourd'hui à l'Élysée pour parler du harcèlement scolaire dont sa fille de 13 ans a été victime. Lindsay qui s'est suicidée en mai dernier. Une conversation entre une maman et une autre, selon Betty. Est-ce pour autant l'assurance que la lutte contre le harcèlement scolaire sera désormais efficace? Nous en débattrons là encore. Et puis, pourquoi les politiques français se passionnent-ils tant pour le Danemark? Depuis 20 ans, les gouvernements danois successifs appliquent l'une des politiques migratoires les plus restrictives d'Europe. Si cette lutte contre l'immigration est une source d'inspiration pour la droite, elle est également un sujet de curiosité pour la majorité. CNews s'est rendu sur place pour comprendre cette politique acceptée par la très grande majorité de la population sur place. Autour de la table ce soir, Valérie Lecable, bonsoir.
Bonsoir,
journaliste,
Julien.
Présidente de HK Stratégie. Bonsoir à Karim Abrik, évidemment, de la rédaction de CNews. Bonsoir, chère Céline Pina, essayiste. Bonsoir. Jean Messia est à vos côtés, président de l'Institut Vivre Français. Très heureux d'être sur le plateau, comme on peut le noter.
Bonjour.
Et Jean-Sébastien Ferjou, également directeur d'Atlantico. Merci à
Bonsoir.
Tous les cinq d'être présents. Il est 22h, passé d'une minute. Un point sur l'actu. Adrien Spiteri.
La loi de programmation militaire votée à une très large majorité à l'Assemblée. Elle prévoit notamment une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans pour le budget des armées. Objectif préparer et moderniser les forces militaires. Sur Twitter, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, salue les 90 heures de débat. Yael Braun-Pivet va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation des 64 ans programmée demain dans l'hémicycle. La présidente de l'Assemblée dit appliquer la règle, rien que la règle. Le reste de la proposition de loi portée par le groupe Liot pourra quand même être examiné. La gauche dénonce un coup de force inacceptable. Et puis après Karim Benzema, N'Golo Kanté signe en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain a signé un contrat pour 3 ans avec le club d'Al-Ittihad. Il quitte Chelsea après 7 années passées à Londres. Son salaire pourrait atteindre 100 millions d'euros par an.
Ah, c'est finalement acquis, je crois.
Et puis par ailleurs, on a appris il y a quelques minutes, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, Lionel Messi.
À Miami.
Inter Miami, avec un pont d'or. Je ne vous parle même pas de ce qui attend financièrement le champion du monde argentin. Qui est donc,
il s'éclatera plus qu'en Arabie Saoudite, à mon avis.
C'est vous qui le dites. Je n'en sais rien. Mais peut-être, c'est possible. En tout cas, sa femme préférait aller à Miami. C'est ce, que, c'est ce qui aurait motivé également sa décision. Bon, voilà pour ce petit
bizarre
point footballistique. Ça va aller sur le football? On marque une petite pause et on se retrouve avec des sujets beaucoup plus sérieux. La niche, Liot, c'est demain, dans 24 heures. Que faut-il en attendre? Pas grand-chose. On verra ça dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, pardonnez-moi. Karim Abrik, Céline Pina, Valérie Lecable, Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia, il fait bon de rire un petit peu de temps en temps, surtout quand on est capable de retrouver son sérieux. Pour évoquer cette niche parlementaire qui aura lieu demain, il n'y aura pas de vote demain à l'Assemblée nationale sur les 64 ans. Les députés ne pourront pas se prononcer sur une abrogation du recul de l'âge de départ légal à la retraite au nom de l'article 40 de la Constitution annoncé par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Cet article interdit toute proposition parlementaire qui crée une nouvelle charge pour les finances publiques. Les opposants, eux, y voient surtout un déni de démocratie. Élodie Huchard nous en dit plus à l'Assemblée nationale.
Ce jeudi sera une journée importante à l'Assemblée nationale. C'est sans doute la dernière fois que les députés parleront et débattront de la fameuse réforme des retraites. On le sait déjà, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, a jugé irrecevable le fait d'abroger la réforme des retraites. Olivier Véran le disait à l'issue du Conseil des ministres, un amendement à 15 milliards par an, ça n'existe pas. Elle a juste rappelé qu'un chat était un chat. Du côté du groupe Liot, du Rassemblement national et de la gauche, on dénonce un déni de démocratie. On déplore le fait qu'il n'y ait pas de vote précisément sur ce texte et sur cet article. Et puis, changement de pied du côté des Républicains. Vous vous en souvenez peut-être, certains avaient voté contre la réforme des retraites, avaient aussi voté une motion de censure. Et bien cette fois, ça ne sera pas le cas. Un cadre du parti m'expliquait, maintenant le gouvernement a compris qu'on était contre cette réforme, on peut passer à autre chose. Et donc dans la majorité, bien forcément, on charge l'opposition, on charge notamment le groupe Liot. Un cadre de la majorité ici à l'Assemblée me disait, Charles de Courson à la Palme d'Or de l'incohérence, bon courage mon petit pote quand tu parleras sérieux budgétaire, quelle crédibilité il a été, l'idiot utile, un trait d'union entre la France insoumise et le Rassemblement national. Vous voyez donc à peu près l'ambiance qui va régner ce jeudi dans l'hémicycle.
Écoutez Yaël Braun-Pivet avant qu'on en discute quelques instants.
Sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée aujourd'hui. Et je suis en train d'examiner l'ensemble des autres amendements, puisqu'il y aura évidemment d'autres irrecevabilités qui seront prononcées. Moi, je suis constante, je l'ai toujours dit, et depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, j'applique la règle, rien que la règle.
Il n'y aura donc pas de vote, Céline Pina, entorse démocratique ou pas ? L'opposition dénonce une lecture partisane de la Constitution en fonction des intérêts de la majorité. Quelle est votre lecture ?
C'est un petit peu le cas, mais disons quand même que normalement, utiliser l'article 40, en fait, il est vraiment là pour bloquer ce genre d'initiative. Le truc, c'est que normalement, quand on sait que ça peut créer une grosse tension politique... On gage, en fait, l'article 40, c'est l'idée qu'on ne peut pas impulser des dépenses nouvelles. Mmh. Donc, gage cet article 40 en général en disant on va faire une taxe sur le tabac et ça permet de discuter et d'examiner quand même la proposition. Donc, oui, ça se discute. Ce qui est très drôle, c'est d'entendre Yaël Braun-Pivet qui n'est quand même pas, j'allais dire, la plus experte en matière de loi comme en matière de réglementation de l'Assemblée, expliquer qu'elle n'a jamais varié, ce qui n'est pour le coup pas le cas, parce qu'il y a eu d'autres moments où on a utilisé ce petit subterfuge.
Mais même ça, ça crée un précédent, parce qu'elle invalide quand même la décision rendue par le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, dont elle est elle-même la présidente. Valérie, je viens vers vous après.
C'était la conférence des présidents. Normalement, la conférence des présidents, on se met d'accord, justement, pour éviter ce genre d'incident. Manifestement, ça n'a pas eu lieu. À mon avis, elle a dû se faire recadrer, et il se trouve qu'elle a quand même des gages à donner à Macron, puisqu'elle a été élue contre son avis. Je pense qu'on est dans le gage que l'on donne à sa majorité.
Valérie, c'est pas rien tout de même de prendre le recul depuis janvier dernier et de se dire que jusqu'à la mise en application plutôt au 1er septembre prochain de cette loi, jamais la représentation nationale n'aura voté d'une forme ou d'une autre cette réforme.
Oui, sous une forme ou une autre. Oui, mais cela dit, à partir du moment où le 49.3 a été utilisé, ça n'a rien d'étonnant. Ce qui est étonnant...
Mais on parle du symbole depuis des mois, vous l'entendez bien.
Oui, mais le symbole, on en a parlé, reparlé. Pour moi, le jour où le 49.3 a été utilisé, l'affaire était terminée, il fallait passer à autre chose. Mais ce
Valérie,
qui est très
avec
étonnant...
pardon de vous couper, Valérie, je vous rends tout de suite la parole. Mais à l'aune de cette journée de demain, donc qui sera un simulacre de débat, puisqu'il n'y aura évidemment pas de vote, on l'a compris à l'arrivée, qu'est-ce qu'on va répondre désormais aux gens qui vont vous demander... À quoi ça sert d'élire des députés ?
Mais écoutez, Julien, je ne comprends pas, parce que les décrets d'application ont commencé à être mis en œuvre. L'âge légal de 64 ans a déjà été mis
en application. Je vous parle d'un vote qui n'a jamais eu lieu.
Donc simplement...
Et qui crispe une partie des Français.
Non, mais là, l'erreur qu'a commis Yaël Braun-Pivet, c'est qu'elle aurait dû dire ça tout de suite. On ne comprend pas pourquoi il y a eu ce délai absolument hallucinant. Les étapes, très rapidement, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a entériné... la niche parlementaire de Liot. Et c'est ça qui a été une mascarade.
Parce que
à partir du moment où ils avaient entériné ça, comme de toute façon ça aggravait de 15 milliards d'euros le budget de l'État, c'était irrecevable, évidemment.
Ce qu'elle a dit là, on parle pas exactement de la même chose, Valérie.
Moi,
vous comprenez bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette loi n'a jamais été votée. Et ce que, à travers ça, ce que je répète, c'est les Français ne l'oublieront pas. Et on voit bien, on est six mois après.
Oui,
et nous en sommes encore avec des... Oui, certes, une mobilisation qui est peut-être un petit peu plus éparse que le premier dernier.
Ce qui est mal compris, et je vais terminer là-dessus, ce qui est mal compris, c'est qu'à partir du moment où il y avait le 49.3 et la loi a été promulguée immédiatement dans la foulée. Les décrets d'application sont déjà passés.
Ça, c'est entendu.
Il n'y avait aucune possibilité alternative, niche parlementaire Liotte ou pas. C'est tout. Et ça a été une illusion, si vous voulez, de croire que Liotte allait pouvoir faire bouger les choses. Parce qu'il n'y avait pas moyen. La seule possibilité aurait été que Yael Braun-Pivet, comme Éric Coquerel, président de la commission des finances, a laissé passer le texte. Si elle avait décidé de faire la même chose, c'est ça qui aurait changé.
C'est la question qu'on est en train de se poser. Pourquoi pas ?
Pour en arriver à bloquer le vote au tout dernier moment, certainement que, un, elle a été recadrée. Deux, on sait qu'elle a des ambitions importantes et qu'elle joue son avenir politique. Et trois, c'est une erreur de sa part parce qu'elle aurait dû le faire tout de suite.
Jean-Sébastien Ferjou.
Oui, moi, ce que je trouve pas très cohérent d'un point de vue démocratique, c'est d'avoir une interprétation de la Constitution différente à quelques jours d'intervalle. Je pense que l'erreur, et je suis d'accord avec Valérie, c'était irrecevable au regard, si en tout cas si on est attentif à la lettre de la Constitution et dès le départ. Là où c'est vicieux, c'est que justement, en général, et c'est ce que Céline Pina disait, on fait semblant de ne pas le voir. Mais tout le monde est Tartuffe dans l'histoire. Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances, qui a considéré que cette proposition de loi-là était recevable, il a déjà, lui, retoqué des amendements au motif de l'article 40 sur des montants de l'ordre de 1 million d'euros. Alors que là, on parle de 15 millions d'euros. Donc c'est quand même tout ça, c'est vraiment le bal de 15 millions. Oui, il en a retoqué parce que ça alourdissait les dépenses de l'État à 1 million. Là, on parle de 15 milliards. Donc on voit que c'est quand même le joyeux bal des hypocrites. La question qu'il y a derrière, elle est plus fondamentale. Elle est, voulons-nous d'un article 40 dans la Constitution qui considère que les parlementaires sont des mineurs ? Parce que c'est ça le sujet, c'est de dire ben, on ne permet pas aux parlementaires, ou en tout cas aux députés à l'Assemblée nationale, de voter des lois au cas où ils seraient complètement dingues et ils se mettraient à voter des dépenses dans tous les sens. Mais on en revient à une vision française qui est très centré sur l'exécutif. On a oublié le Parlement. Ça marchait tant qu'il y avait des majorités. Quand il n'y a plus de majorité, on ne peut pas se passer d'une culture parlementaire.
La majorité relative de ce deuxième quinquennat, on pensait qu'elle pousserait à plus de débats et plus de difficultés pour le gouvernement, mais à coup d'articles constitutionnels, on se rend compte que finalement, majorité relative, majorité absolue, finalement, où est la différence ?
Mais le sujet n'est pas là, le sujet il est juste dans le fait d'une capacité à construire des coalitions, parce que pris dans l'autre sens, le texte n'a certes pas été voté par l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas eu de majorité pour le rejeter. S'il y avait eu une majorité pour se mettre d'accord pour le rejeter au moment du 49-3, eh ben, il n'y aurait pas de réforme des retraites en France.
Allez, Jean Messia qui a
pas
parlé.
À 9 voix près ou à 1 ou à 40, c'est pareil, c'est la loi de la majorité.
Jean Messia. Que le gouvernement gouverne avec la Constitution, c'est parfaitement normal dans un État de droit et dans un pays démocratique. Sauf que dans un pays démocratique et dans un État de droit, il n'y a pas que la Constitution. Il y a aussi le Parlement avec lequel il faut travailler. Alors effectivement, quand les majorités sont absolues, bah, la vie parlementaire et la vie gouvernementale coïncident d'une certaine façon. Quand il y a effectivement une forme de dénivelé politique ou démocratique parce que l'Assemblée nationale, en tout cas le Parlement, n'est pas aligné au diapason avec le gouvernement, ben là c'est un tout autre exercice.
Non mais ça donne encore une fois cette image à tous ceux qui critiquent notre démocratie ces derniers temps, cette espèce d'impunité des institutions.
Ben, le problème c'est pas ça, je pense que le problème c'est aussi une forme de surdité du gouvernement face à l'expression démocratique qui, encore une fois, utilise d'autres vecteurs que la simple expression constitutionnelle. Il y a le Parlement, il y a la rue, et puis il y a effectivement les sondages qui ne se démentent pas depuis des semaines et qui rendent cette réforme extrêmement impopulaire. Allez. Et je pense que ça va se poursuivre, cette contestation.
Karim Abric.
Oui, j'allais dire après le 49-3, le 47-1, l'article 40, on a encore cette espèce d'impression d'une
empirie. Tous dans la quarantaine au moins, oui, les articles. C'est au moins,
ça.
On a le repère.
Voilà, c'est ça. Non, mais ça donne une impression encore d'une autre entourloupette pour éviter ce vote, donc éviter le véritable exercice démocratique. On sait que depuis le début, le gouvernement voulait aller jusqu'au bout. Et je pense que, encore une fois, ce que ça donne comme impression pour les citoyens qui regardent ça, ben, ils se disent, de toute façon, on n'a plus voix au chapitre. Et il n'y a pas de possibilité de faire avancer sa voix autrement. Donc, il n'y a pas de possibilité de référendum. L'opposition ne peut pas véritablement jouer son rôle. On est simplement, on a l'impression qu'on manipule des articles constitutionnels, certes, qui sont légaux, mais qui vont contre l'esprit, justement, d'une représentativité du peuple. Alors moi, je pense que c'est là le véritable problème. Et cela dit, je pense que les syndicats y ont cru malgré tout. Il y a eu une espèce de, je ne sais pas si c'est de faux suspense
ou une
illusion, mais les syndicats quand même essaient de mobiliser encore leur base en se disant que tout était encore possible. Peut-être même que l'IOT y a cru. Alors on a vraiment l'impression d'avoir joué dans un mauvais théâtre depuis le début.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Rendez-vous demain donc à l'Assemblée. Ils ont jusqu'à minuit pour débattre. Mais bon, il n'y aura pas de vote. Je ne sais pas franchement ce que donnera tout ça. Mais on le suivra quand même attentivement parce que les débats risquent d'être un peu énervés quand même à l'Assemblée sur la base de ce fameux non-vote. La pause, la dernière de la soirée. Et on parle de toute autre chose. La polémique Carole Delga sur France Info ce matin. Qui, pour parler d'immigration, donne Kylian Mbappé et Yannick Noah comme exemple. Et puis, ces abayas qui sont de plus en plus nombreuses dans nos collèges ou lycées et qui inquiètent le ministère de l'Éducation nationale. A tout de suite. Nous sommes de retour avec Karima Brick, Céline Pina, Valérie Lecable, Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia, ensemble dans Soir Info jusqu'à minuit, sans pub. Carole Delga, avant de parler de l'abaya, quel sujet du jour, la une du Parisien. Ah oui, autant pour moi, j'ai oublié le JT. Adrien Spiteri, on se retrouve tout de suite.
Du nouveau, dans l'affaire de l'agression d'un journaliste à Nîmes hier, un majeur et deux mineurs ont été placés en garde à vue. Les faits se sont déroulés dans un quartier gangréné par les violences liées au trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné cette agression. De plus en plus de Français conduisent sans assurance, en particulier les plus jeunes. Un conducteur sur deux pris en défaut d'assurance à moins de 30 ans, des chiffres publiés par le Fonds de garantie des victimes. Il appelle à une réaction de la part des pouvoirs publics. Et puis Mohamed Awas ne disputera pas la Coupe du Monde de rugby. Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, a appelé le pilier droit de Montpellier pour le prévenir. Mohamed Awas a été condamné la semaine dernière pour violence conjugale. Il a présenté ses excuses auprès des joueurs et du staff de l'équipe de France.
Allez, nous sommes de retour, les amis. Carole Delga, qui est donc au cœur d'une polémique. En réponse aujourd'hui, Carole Delga, qui est évidemment la présidente d'Occitanie, elle était sur France Info ce matin. En réponse à une question sur la régularisation des sans-papiers, qui s'oppose à l'alliance de gauche NUPES, a expliqué que l'immigration constitue une richesse. Jusqu'ici, pas grand-chose à redire de son point de vue, en tout cas, avant de citer des exemples. Et là, les exemples, ce ne sont pas forcément les mieux choisis. Revoyez cette séquence.
Je pense que sur l'immigration, on doit arrêter de véhiculer cette image d'une immigration qui ne représente qu'une menace. L'immigration, c'est une richesse pour la France. C'est une richesse. Qui c'est qui a fait fonctionner les hôpitaux, les maisons de retraite pendant la crise de Covid? Il y avait beaucoup d'immigrés. C'est qui les personnalités préférées des Français? C'est Kylian Mbappé, c'est Yannick Noah.
Mais ce sont des Français, ce sont des Français. Attention, il y a une différence.
Pardon?
Ce sont des Français.
Oui, non, mais tout à fait, mais ils sont vraiment originaires d'autres pays. Ce sont les fruits de l'immigration.
Mbappé, il est né en France.
Non, mais c'est leurs parents, ces personnes que je vous cite, ne sont pas.
La mère de Kylian Mbappé est née en France.
Je ne pense pas.
Vous parlez d'origine.
Vous parler, c'est qu'on ne peut pas, quand même, quand on est en politique, être juste dans la stigmatisation de l'immigration.
Quelques heures après avoir évoqué les origines de Kylian Mbappé et de Yannick Noah, la patronne de la région Occitanie a reconnu s'être mal exprimée. Je m'appelle Delga, première, deuxième, centième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Face à ceux qui brandissent l'immigration comme une menace, j'ai rappelé que c'est une richesse, une contribution au génie et au succès de notre pays. Je regrette donc de m'être mal exprimée. On parle tout de même d'une dame qu'on disait ou qu'on dit encore pour certains présidentiable. Céline Pina, c'est pour le moins maladroit, pour ne pas dire plus.
En fait, moi, ce que je trouve stupide, c'est la polémique.
Oui.
Je trouve que cette polémique est d'une bêtise rare. Pourquoi? Parce qu'on entend très bien ce que veut dire Carole Delga. En fait, elle essaie d'illustrer le fait que vous pouvez être un enfant issu de l'immigration et porter, y compris le maillot de l'équipe de France, être une fierté pour le pays dans lequel vous êtes né, mais dont vous n'êtes
pas... Je trouve qu'il y a quand même une lecture... Ça veut quand même dire qu'elle distingue, fait une distinction entre les Français de souche et les Français issus d'origines étrangères. Sinon, pourquoi citer des exemples comme
celui-là ? Le père de Mbappé, en l'occurrence, est camerounais.
Oui, mais elle parle de Kylian Mbappé. Mbappé est français, né en France.
Oui, et alors, ce que je veux dire, c'est que les liens avec...
Elle fait un lien entre un Français né en France et des gens qui ne sont pas français, donc on a applaudi pendant le Covid.
Ce qu'elle veut valoriser, c'est l'idée que vous pouvez venir d'ailleurs, que vos parents peuvent venir d'ailleurs et que vous pouvez très bien incarner la France sans aucun problème.
Elle l'a mal
exprimé, et elle note que les personnalités préférées des Français en premier lieu sont des gens dont on voit très bien qu'ils ne sont pas originaires d'Europe au départ. C'est tout ce qu'elle dit. C'est un grand classique en politique. C'est-à-dire de donner des exemples en disant, et à l'époque, effectivement, moi je me souviens dans les années 90, on parlait de Noah en disant, mais regardez, voilà ce que peut apporter quelqu'un originaire d'ailleurs, etc. Et c'est comme ça qu'elle le dit, il n'y a rien d'autre.
Alors la journaliste fait du zèle en la reprenant?
Oui,
alors,
tout à fait, je pense que la journaliste fait du zèle
son
en
métier.
La reprenant.
Moi je trouve qu'elle rappelle juste les faits que... Carole Delga, pardon, j'entends évidemment ce que vous dites, et c'est frappé du sceau du bon sens, sauf qu'il y a les faits aussi de cette interview, Carole Delga, parle des immigrés qui ont fait le bien de la France et qui sont une richesse, et qu'elle donne en exemple deux personnes nées en France de nationalité française. Voilà. C'est une maladresse. Alors de là à se faire épingler par toute la gauche bien-pensante, il y a encore un autre chemin qui a été fait, par notamment Jean-Luc Mélenchon. Carole Delga affiche ses préjugés. J'arrive Valérie tout de suite. Hein. Je lis les tweets de LFI. Carole Delga qui affiche ses préjugés sur la nationalité française après leur couleur de peau. Consternante contamination par les clichés de l'extrême droite. Tous ces gens défont la France au lieu de construire chaque jour son unité. L'Occitanie mérite mieux, dit-il. Je rappelle qu'elle est de gauche, qu'elle est du PS, sauf qu'elle n'est pas à la NUPES. Donc ce sont les frères ennemis là, qui
se
les clichés d'extrême droite, c'est que l'immigration.
Alors, je finis avec les tweets et Valérie, comme je l'ai dit, vous prendrez la parole. Nadège Abou-Mangoli, qui est elle aussi députée LFI. Au bout de combien de générations, Madame Delga, nous autorise-t-elle, nous qui sommes noirs, à être considérés comme français? Lutter contre la stigmatisation, dit-elle. Non merci. Pour lutter, on se passera des biais racistes de ceux qui disent « j'ai un ami noir » ou « j'aime Noah ». Enfin, je vous réserve également Manon Aubry, la députée européenne LFI, qui elle aussi est allée de son naufrage. Et le mot, voilà l'alternative à la NUPES. Il n'y avait qu'Olivier Faure pour essayer de venir en aide aux soldats Delga. Faux procès fait à Carole Delga, ses propos clarifiés. La gauche doit faire avancer le débat. Le PS que je dirige sera toujours sans concession avec les racistes. La République reconnaît tous les enfants sans référence, à leurs origines ou leur couleur de peau. Ça va quand même très très loin. Pour ce que moi j'ai l'impression que c'est une maladresse, mais c'est ouvert à vos avis les uns les autres.
Moi je pense que c'est pas précis.
Non.
Et quand on aspire
à la présidence de la République, je suis assez d'accord.
De la République, en fait, elle est un tournant aujourd'hui, Carole Delga. C'est-à-dire qu'elle est présidente de l'Occitanie, elle travaille énormément, elle porte des idées de la gauche entre Emmanuel Macron et la NUPES, donc cette gauche de gouvernement. Elle vient le week-end dernier de lancer un grand mouvement, d'avoir des grands débats, etc., etc. Et donc elle commence à être exposée sur le devant de la scène. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que cette femme qui porte les espoirs d'une fange non négligeable de la population française doit maintenant...
Il y en a certains qui ont perdu un peu espoir en l'écoutant ce matin.
Elle doit apprendre à monter en puissance et elle doit apprendre à dire précisément les choses. Oui. Parce que, objectivement, je suis absolument désolée, mais si Yannick Noah et Kylian Mbappé n'étaient pas de peau noire, elle n'aurait jamais dit ça, puisque... Les deux mères de Kylian Mbappé et de Yannick Noah sont françaises nées en France. Donc il ne faut quand même pas exagérer. Mais il n'y a pas une personne qui n'est pas...
La maman de Kylian Mbappé est d'origine algérienne, mais elle est née en France.
Qui n'est pas d'origine immigrée.
Non, mais la maman de Kylian Mbappé est d'origine algérienne.
Non, mais ce que elle est née en France.
Oui, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire.
Donc si vous voulez, si on commence à dire que les gens ici de l'immigration... ma mère n'est pas née en France. Et vous ne me dites pas que je suis issue de l'immigration. Je suis absolument désolée de vous le dire. Donc c'est sans fin. Je pense que ma mère n'est pas née en France. Elle n'est pas française, voilà. Et vous n'allez pas me dire que je ne suis pas française. Non, mais
je crois pas qu'elle a dit.
Avançons.
Ça ne va pas, ce n'est pas précis. Il faut être précis dans ce
Moi, je pense que ce que dit Carole Delga est tout simplement logique. Genre, il suffit que ce soit Kylian Mbappé.
Il y a une confusion qui est faite. Que ce soit elle parle de l'immigration et elle donne en exemple deux Français nés en France.
Oui, mais ils sont. Attendez, l'immigration, c'est pas une génération.
Elle n'a pas choisi le meilleur exemple. Mais je peux quand même m'exprimer de ça. Oui, pardon.
Mais avant, c'était.
Je dis que l'immigration, c'est pas un phénomène spontané, ponctuel, qui n'existe qu'au moment où on parle. On peut être d'origine. Moi, je suis français, je suis d'origine étrangère. Voilà. Et même si, et si j'ai mais des
comme, enfants. Comme.
Voilà, mais donc comme, en fait, ce qu'elle dit. Non, mais attendez, laissez-moi finir.
Laissez finir.
Je vous ai laissé finir. Non, mais.
S'il vous plaît.
Elle dit quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'Kylian Mbappé et Yannick Noah sont issus de l'immigration. Ça n'empêche pas qu'ils soient français. Elle ne dit pas ça. Mais pourquoi c'est polémique? Parce que venant de la part de quelqu'un qui se situe à gauche, eh bien, c'est quelqu'un qui se dessille de manière effectivement étonnante, parce que ce n'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre à gauche. En fait, qu'est-ce qu'on entend? On entend qu'il ne suffit pas de naître en France pour être assimilé à l'identité française. Le cas de Kylian Mbappé... Le cas, bien sûr, mais je vous nie pas ce droit, madame. Je dis simplement que Kylian Mbappé, il est français, il l'a montré, il est assimilé. Yannick Noah, même chose, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les frères Kouachi sont nés en France de parents français, ça ne fait pas d'eux des Français pour moi. Excusez-moi. Donc le simple fait de non mais le simple fait de
ce sont des Français criminels, mais
ce sont des Français administrativement, c'est tout. Oui. Et donc si vous voulez pour la gauche, Carole Delga devrait s'appeler Carole Dégâts, parce qu'elle fait de gros dégâts à gauche. Bravo. En allez. Reconnaissant une réalité que tous c'est les entendu. Français sentent. Tous les Français sentent, sauf la gauche et la NUPES en particulier.
On va prendre encore deux positions, Karima et Jean-Sébastien, et puis on parle de toute autre chose et ce phénomène de l'abaya à l'école. Allez-y, Karima.
Non, moi, je peux comprendre, en fait, le malaise parce qu'on rentre un peu... C'était une maladresse, certainement. Là, je comprends que c'est une maladresse dans son discours.
Le procès en racisme va un peu loin, peut-être.
Oui, c'est ça. Sauf que je trouve quand même que de plus en plus, on l'entend beaucoup à gauche et même à l'extrême gauche. Il y a un discours racialiste, il y a un discours où on va vous enfermer éternellement en lien avec votre couleur de peau ou votre origine ethnique de vos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Donc, à tout jamais, c'est votre identité figée. Et c'est votre première identité. Et souvent même, ça va être associé à une logique, je dirais même, de victime, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est là où ça devient dangereux.
Ça ne devrait pas.
Ça ne devrait pas.
Mais le problème, pourquoi c'est un problème aujourd'hui? C'est parce que nous avons des problèmes d'intégration, et je ne vous parle même pas d'assimilation, qui fait qu'effectivement, vous avez des gens, par la folle politique des naturalisations que nous avons depuis une quarantaine d'années, la nationalité française a été donnée à des gens qui ne vivent pas l'identité française et qui parfois parlent mal le français.
Valérie, j'aimerais qu'on avance. Et Jean-Sébastien, pour le dernier mot, et on passe au sujet des abayas, s'il vous plaît.
Non, mais c'est certainement une maladresse, mais franchement, faire une polémique et accuser Carole Delga de racisme,
elle est
en train de faire une tirade sur les bienfaits de l'immigration et pour défendre l'aide médicale d'État.
Elle a sauté sur l'occasion pour régler ses comptes.
C'est que les propos de Mme Delga, elle fait une maladresse en citant ces deux noms-là en particulier, mais par ailleurs, c'était quand même très niais. Et si racisme il y a, ou à minima paternaliste, c'est justement en voulant nécessairement dire que les immigrés, par définition, parce qu'ils sont immigrés, sont une chance pour la France. Alors quant à Jean-Luc Mélenchon, qui trouve que dire que l'immigration est une chance pour la France, c'est un cliché d'extrême droite, alors là, je veux dire, on atteint quand même le summum. Non, mais c'est comme le procès, la gauche morale est en train de se dévorer elle-même. Regardez ce qui est arrivé à François Ruffin, pour avoir dit peut-être que les
Français vous allez lire avec
ne
moi
sont
tout
pas
à l'heure,
l'ultra
le tweet
priorité.
De
Il a dû s'excuser, Madame Delga a dû s'excuser. Elle aussi, dans un autre registre, on voit que Tahab Ouaf, lui, pour le coup, ne s'est pas excusé, mais il a été blanchi en interne par je ne sais quel comité
théodule.
Mais non, parce que c'est la même logique de cette gauche morale qui s'auto-détruit. Je vais vous dire pourquoi je vous disais que c'est une forme de paternalisme, parce que considérer, assigner les gens, pour le coup, à leur identité, c'est une forme de racisme. Et ça marche dans les deux sens. Il est aussi scandaleux de dire que les immigrés, parce qu'ils sont immigrés, ne pourraient jamais devenir français, ou auraient vocation à devenir criminels, ou je ne sais quoi d'autre, que de dire parce qu'ils sont immigrés, forcément, c'est une chance pour la France. Non, ça dépend des individus, ça dépend de leur parcours individuel, ça dépend de leur volonté de s'intégrer. Et il ne suffit pas d'un passeport, ni même d'avoir effectivement.
En tout cas, la petite vengeance de LFI et la tempête dans un verre d'eau.
C'est la première chose qu'on a dit, c'est maladroit. Mais de là à crier au racisme.
Il y a quand même le deuxième tweet, quand elle dit deuxième, troisième, centième génération, nous sommes tous des immigrés. Attention.
Ça, c'est impensif.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut en débattre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit tout le monde est immigré aussi?
Je pense que c'est désagréable pour les téléspectateurs.
Donc ce n'est pas simplement de la maladresse. Rendu quand vous faites ce tweet-là, c'est aussi une idéologie, c'est une pensée.
C'est la pensée. Vraiment dernier mot, s'il vous plaît.
C'est la pensée de la gauche. C'est un slogan qui était répété à chaque fois qu'il y avait des réunions, à chaque fois qu'il y avait des. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que vous parlez de l'imprécision. Mais ce qu'on aurait pu noter, c'est le manque de courage de tous ces gens qui veulent tous être présidents et qui se jettent sur Carole Delga, parce que se draper dans de la vertu en mettant quelqu'un d'autre plus bas que terre, c'est tellement bon en politique. Et ça, c'est un comportement de lâche. Quant à Carole Delga,
elle
n'aurait pas dû s'excuser.
Ce qui a été ça le fond du sujet.
Règlement. Valérie, pardon, je suis désolé, mais vous voyez bien que je fais les gros yeux à tout le monde parce que je veux avancer depuis 10 minutes. Donc si à chaque fois... Pardon, Valérie, vous savez que je vous aime. Mais là, ça fait 3 fois que je dis que c'est le dernier mot. Donc avançons, si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord ? On parle des abayas et vous êtes la première à intervenir. Depuis plusieurs mois, les incidents se multiplient dans les établissements scolaires à propos du port de l'abaya. Nos confrères du Parisien en faisaient leur une ce matin. On la reverra dans un instant. Cette fameuse robe traditionnelle qui fait de plus en plus d'adeptes chez les jeunes. C'est pourquoi Papendie a réuni tous les recteurs d'académie hier. Le ministre de l'Éducation qui veut afficher, je cite, « fermeté face aux pressions communautaires dans certains quartiers ». Alors justement, direction Gonesse, dans le Val-d'Oise, pour un reportage devant un lycée. Des jeunes filles portant le voile ou l'abaya nous expliquent comment elles bravent cette fameuse interdiction en milieu scolaire ou rusent pour ne pas être surprises par leurs professeurs. Reportage de Jeanne Cancard.
Devant des lycées publics comme celui-ci en Île-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile avant de franchir les portes de leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent d'adapter leur tenue en milieu scolaire, comme Inès et Mélina, élèves en seconde.
Je mets vraiment ma capuche, soit je mets mon bonnet et c'est tout.
On a le droit de mettre la capuche dans l'établissement ?
À l'intérieur, non, mais je le fais quand même.
On essaye de mettre des longs pulls et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux.
L'année dernière, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
C'est bien, moi j'aime bien. C'est des bons conseils.
Ces conseils, certains élèves, comme cette lycéenne, tentent aussi de les suivre à l'extérieur de l'établissement lors des sorties scolaires.
Si c'est obligatoire, je viens, mais en me couvrant le plus possible.
En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements traditionnels, comme l'abaya, que cette lycéenne souhaitait porter, une robe longue répandue au Moyen-Orient.
Ils ont dit oui, j'ai pas le droit de porter cette robe-là. J'ai dit mais c'est comme une robe. Ils ont dit que je la porte plus, mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon c'est la même chose, c'est une robe.
Après une hausse des incidents vestimentaires liés à l'abaya au début du printemps, Papendiaï réunissait hier les recteurs d'académie. Les chefs d'établissement devraient également être reçus prochainement. En attendant, l'ambiguïté demeure autour de l'abaya.
Les incidents autour de ce vêtement, donc, qui est un symbole, se multiplient à l'école, Valérie Lecâble, mais par manque de consignes claires, donc on le comprend, les enseignants, les proviseurs sont impuissants. Il y a un vide juridique sur ce vêtement qui est teinté de religiosité, difficile de le nier, mais sans qu'on soit véritablement capable de trancher ou d'établir des règles.
Bah écoutez, pour moi, ça devrait être interdit, hein, c'est assez simple.
Pour quelle raison ?
Bah parce que c'est une forme de provocation, c'est une forme de militantisme qui, pour moi, n'a pas lieu d'être dans un établissement public et encore moins à l'école, sous couvert d'une nouvelle mode. Ça ressemble pas à une mode, enfin ça a aucun sens. Si encore il n'y avait pas le côté la tête couverte et qu'il s'agissait juste d'une robe, en fait. On voit bien, par exemple, on sait que les Africaines qui vivent en France aiment bien avoir des espèces de robes longues avec des fleurs, etc. Ça dérange personne, c'est culturel, c'est agréable à porter, il n'y a pas de raison. Donc on peut comprendre qu'une certaine forme de robe puisse avoir une origine un peu culturelle, etc. Ça serait possible. Mais l'assortiment total avec pas un bout de peau qui dépasse, ostensiblement plus la coiffe sur la tête, plus on voit plus les chevilles, ni les poignets, ni machin, tiens, mais pour moi c'est trop.
La justification de ces jeunes femmes, c'est la pudeur, c'est pas la religion.
Non mais pour moi on n'est plus...
Ouais, mais juste non, le mais discours peu, officiel.
Non mais pudeur ou pas pudeur, on n'est plus à l'école de la République, c'est tout. Je veux dire, en France on s'habille pas comme ça et il n'y a absolument aucune raison. On parle d'intégration, effectivement. Oui, mais... L'école de la République, c'est l'école de l'intégration. Et pour intégrer les gens, on ne peut pas accepter ce type de comportement.
Ce qui est étonnant, Jean Messia, c'est que là, on parle donc d'une ambiguïté.
Mais qui voit une ambiguïté ?
Il n'y a pas d'ambiguïté, justement, j'allais rebondir là-dessus.
Qui, non, mais à part Papendiaï, qui voit une ambiguïté ?
Je vais juste prendre une minute pour vous expliquer, c'est très simple.
Allez-y.
Vous avez la loi de 2004.
Oui, la loi de la laïcité.
La loi sur l'interdiction des ports de signes religieux ostentatoires à l'école. Cette loi est très claire. Elle dit que est considéré comme un vêtement religieux le vêtement qui ne provoque aucune espèce d'ambiguïté quant à l'appartenance de celui ou celle qui l'apporte à une religion particulière. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est qui d'autre que des musulmanes en France porte l'abaya ? Personne. Mmh. Donc à partir du moment où une fille porte l'abaya, on sait immédiatement qu'elle appartient à une religion, cette
mais
religion
toutes
est
l'islam. Mais les musulmanes, loin de là, ne portent pas l'abaya. Et on est très très
non,
très loin de la majorité des
c'est
musulmanes.
Pas, c'est pas ce
non,
que
moi,
je
le dis non, pour que
celle qui ne
soient...
le... Non mais attendez, Julien Pasquet, il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre. Celle qui ne le porte pas ne pose pas de problème. Mmh. Celle qui ne porte pas d'abaya, qui s'habille à la française et à l'occidentale, ce qui est, à mon avis, une majorité de femmes musulmanes, elle ne pose pas de problème, ni à l'école, ni ailleurs. Mmh. Par contre, celle qui, à l'école, met une abaya, on est en plein dans la loi de 2004. Alors, j'ai entendu un autre argument qui consiste à
alors
dire...
Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'inclure dans la loi de 2004 ? C'est bien qu'il y a une ambiguïté.
Mais parce que le problème...
Parce que ce n'est pas considéré comme un vêtement religieux. Sinon, ce serait tranché. Mais c'est de la loi de 2004, vous ne venez pas avec une abaya, point.
Mais
final.
Parce que je pense que le problème...
C'est bien qu'on arrive.
Non, mais attendez, le problème n'est pas en l'occurrence juridique, c'est un problème de courage politique.
Ah, voilà.
C'est-à-dire que quand on n'a pas envie de faire... Eh bien, on trouve des interstices juridiques là où il n'y en a pas, et on trouve des prétextes juridiques là où il n'y en a pas. C'est exactement ce que la manière dont louvoie le gouvernement sur les questions alter-identitaires, que ce soit à l'abaya ou autre.
Céline Pina, ce qui est dérangeant derrière l'abaya, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la pudeur qui est revendiquée par celle qui le porte la plupart du temps, c'est d'afficher clairement une appartenance à un groupe et une communauté religieuse.
Un peu plus que ça, c'est-à-dire que c'est clairement être sous influence islamiste. C'est qui diffuse les mots d'ordre ? Qui tourne les vidéos qui sont envoyées aux jeunes filles qui sont sur TikTok ?
Qui
est derrière tout ce mouvement ? Eh bien, une fois qu'on creuse un petit peu, on retrouve toujours les mêmes acteurs, soit les frères musulmans, soit l'Arabie Saoudite, un petit peu moins parce qu'en fait ils veulent se racheter, mais on a toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes financeurs, toujours la même idéologie. Et quel est le but ? Le but, c'est de se distinguer. Vous savez comment on crée un pays, comment on crée une nation ? On crée, ou comment simplement on crée des alliances entre les hommes, par la table et par le lit. Tout ce que veut faire en fait l'islamisme, le séparatisme, c'est d'empêcher qu'on puisse se marier, donc la mixité, qu'on puisse partager un repas, et donc tous les interdits, la femme et la propriété.
C'est excluant aussi, bien sûr.
C'est ça, la femme est la propriété de sa communauté et il faut bien qu'on repère tout de suite à qui elle appartient. Donc l'abaya, le voile permettent tout de suite de dire à qui appartient cette femme, qui a le droit de se marier avec elle, qui n'a pas le droit de le faire. Tout le reste c'est du pipeau. Et enfin derrière ces tenues, on ne parle pas de pudeur. Parce qu'il faut voir en fait les communications. C'est quoi la pudeur de la femme islamiste ? C'est tout simplement qu'elle considère que moi, que Karima, que nous, on est des putes parce que tout simplement on ne couvre pas nos cheveux, et on ose porter des décolletés, on peut porter des mini-jupes. Voilà. Et en général, quand ce type de femme vous parle de pudeur, elle dit « vous ne voudriez quand même pas que je me promène toute nue ?» Parce que c'est comme ça qu'elle considère que nous sommes. Donc on connaît très bien ce qu'il y a derrière ces discours et on connaît aussi quelle est l'image de la femme derrière ces discours. C'est une image infériorisée. La femme est sale, elle est ontologiquement sale, son corps est sale. Vous ne pouvez pas habiter un endroit sale, vous ne pouvez pas vous émanciper si votre corps, vos cheveux sont des objets d'opprobre. Donc c'est clairement une rupture avec notre civilité et une volonté de marquer un séparatisme. Donc il faut arrêter d'être naïf. Et oui, on n'a pas de problème juridique, on peut l'interdire. Je crains qu'avec Papendiaï, on y parvienne.
Pourquoi on y arrivera ? Pourquoi on sait tous autour de cette table qu'on n'arrivera pas à interdire
Papendiaï ? Par peur. Par peur. Je vous rappelle qu'il y a...
Non, mais il y aura toujours des contournements. Non, mais après,
l'accusation d'islamophobie est terrassante. Hein.
Le sang a coulé. On a plus de 240 morts sur notre sol par des attentats islamistes. Un professeur s'est fait décapiter pour avoir montré une simple caricature. Enfin, il y a des réalités. Aujourd'hui, quand vous êtes ciblé par des islamistes, c'est ce qui est arrivé à Samuel Paty, il y a des gens qui peuvent passer à l'acte. Et ces réseaux sont puissants, ils sont connus, on ne les combat pas non plus. Donc oui, la peur suffit.
Je voudrais juste que vous entendiez vos compositions.
Et attendez, une dernière chose, rapidement. L'influence des islamistes aussi, parce que les radicaux dans toutes les religions sont en général des minoritaires, sauf en islam, où ce sont les radicaux qui donnent le ton et les islamistes qui montrent la voie. Donc là, on a un vrai problème quand une religion...
L'islam radical n'est pas majoritaire en France.
Eh ben...
Bah non.
Ah bah si, vous avez les chiffres, par exemple. Quand vous demandez lycéens...
Je pense qu'on ne se comprend pas. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que la majorité des musulmans de France ne sont pas radicaux.
Ben non, vous avez tort et on a les chiffres.
J'ai tort de dire
oui.
Ça.
C'est-à-dire, par exemple, prenons 2016. Vous prenez la fondation... Fondapol l'a fait. Jean Jaurès l'a fait, mais avant, c'était...
Montaigne,
l'Institut Montaigne, vous avez...
Oui, sur les lois, les lois religieuses qui sont au-dessus des lois de la République.
30% de musulmans qui se disent islamistes et qui l'assument complètement. Et vous en avez 27% qui s'interrogent. On refait les mêmes études sur les lycéens et sur les jeunes jusqu'à 34 ans. Et bien là, chez les lycéens, c'est plus de 65%. Et les taux ne cessent de grimper et à chaque fois, ce qui est mis en avant, c'est la religion. Donc non, c'est pas ultra minoritaire et ça commence à devenir majoritaire et c'est un vrai problème. Ça veut pas dire que tous sont des fous furieux, mais ça veut dire qu'en fait, cette représentation du monde, elle est épousée par de plus en plus de gens.
Écoutez cet enseignant, écoutez Jean-Paul Brighelli, son alerte. Il était enseignant à Marseille, il a vu ce phénomène se développer, auteur de nombreux ouvrages choc d'ailleurs sur l'Assemblée nationale. Il était sur notre antenne cet après-midi. Écoutez cet extrait.
Dans un premier temps, vous savez, dès octobre 1989, il y a eu des affaires de voile. C'est l'époque où Lionel Jospin disait « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» Hein, ça lui sera... reproché dans les siècles des siècles. Actuellement, ce sont les abayas, c'est-à-dire qu'après une politique de petits pas, il y a une politique de grandes enjambées. On essaie d'entrer de plus en plus dans l'école, et ce n'est pas un hasard si c'est dans l'école, parce que c'est le lieu par excellence d'exercice de la République et de la laïcité, ou du moins ça devrait l'être. Au lycée Victor Hugo, il y a eu d'abord des incidents sérieux entre le proviseur et des élèves et des adjoints d'éducation, ce qu'on appelait les pions autrefois, qui sont recrutés parmi les grands frères du quartier, hein, parce qu'on est dans le quartier de la Belle de Mai, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de France et d'Europe. Ça a été un peu la même chose au lycée Thiers, parce que là, les élèves sont soutenus par une bande de profs islamo-gauchistes, et je le dis très clairement, qui les poussent.
Alors, il est très dur, ce monsieur. Maintenant, moi, je me pose également une question. Est-ce qu'on doit... Jean-Sébastien Ferjou et Karima, qui n'ont pas encore parlé. Est-ce qu'on doit légiférer sur chaque pièce de vêtement? Parce que ça risque de devenir ridicule à la longue. Est-ce qu'il vaut mieux des jeunes filles, en l'occurrence, qui viennent telles qu'elles en ont envie à l'école de la République, ou les exclure, l'interdire, et voir pulluler les écoles confessionnelles dans notre pays? Qu'est-ce qui serait le mieux?
C'est un raisonnement par la lâcheté, en quelque sorte. C'est accepté, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que décrivait Céline Pina. Ça n'est pas anodin. Il y a une entreprise de pénétration des islamistes en France, pas seulement en France, dans les autres pays occidentaux. Et le vêtement, le voile ou la tenue vestimentaire de la femme, de manière générale, mais partout, ça a été le cas en Algérie, ça a été le cas au Maroc, ça a été le cas en Tunisie, en Égypte. Aussi, c'était des pays où, il y a plusieurs décennies, les gens ne portaient pas, ou beaucoup moins, le voile. L'islam originaire de la péninsule arabique, le wahhabite version saoudienne ou la version frériste quand ça vient du Qatar, s'est étendu en Afrique subsaharienne aussi. Poser la question à des Guinéens. D'ailleurs, beaucoup de parents français sont complètement dépités, eux-mêmes musulmans, dépités de voir ce qui se passe chez les jeunes générations, parce qu'il y a les chiffres que citait Céline, effectivement.
Oui, parce que c'est une autre question que j'avais. C'est vrai que les premières générations premières générations de musulmans qui se sont installés en France, ces considérations n'ont jamais existé.
Pour répondre à votre question sur la loi, moi je pense que de toute façon, se mettre sur l'angle de la laïcité, c'est une erreur intellectuelle. Le sujet, c'est l'autorité. Un établissement scolaire pourrait très bien décider, quelle que soit la tenue, que ce soit parce que vous ne voulez pas les crop tops, ou parce que vous ne voulez pas, et de dire, voilà, le chef d'établissement a vocation, il y a des règles, à la limite, certaines règles sont absurdes. Pourquoi est-ce qu'on attend
chaque chef d'établissement doit statuer en fonction de chaque tenue? C'est juste injouable et ça les met en danger.
Pourquoi est-ce qu'on attend que la maîtresse de maison commence pour commencer à manger? Eh bien, parce que ça indique la civilité. Oui, la règle, elle pourrait être une autre. Non, mais on met les fourchettes dans un sens en France, on les met dans un autre en Angleterre. On s'en fiche de la règle en soi. Ce qui compte, c'est l'existence de la règle, parce qu'il n'y a pas de vie en communauté s'il n'y a pas de règle. Mais dernière chose, c'est aussi parce que nous sommes dans un vide spirituel absolu, parce que pour beaucoup, c'est pas forcément parce qu'elles sont islamistes, c'est parce que tu veux pas me voir, et ben tu vas pas me voir.
C'est un aspect que je voulais aborder avec vous. Alors on va l'aborder après.
Il y a une dimension de rébellion adolescente aussi.
Tout à fait. C'est un aspect que je voulais qu'on aborde ensemble. Un dernier mot sur cet angle-là, Karim Abrik, parce que je voudrais qu'on parle donc de Mathilde Panot, qui a clairement mis une cible dans le dos des journalistes du Parisien. On va voir son tweet dans un instant. Et en effet, cette considération et ce pas de recul à faire pour comprendre ce phénomène aussi. Karima, pardon.
Oui, parce qu'on entend parfois dire c'est aussi générationnel. Moi, je suis d'accord. Il y a quelque chose aussi. C'est pas vrai que tout d'un coup, parce que la loi dirait non, c'est interdit, c'est une tenue effectivement ostentatoire qui montre absolument votre appartenance religieuse, donc qui va à l'encontre quand même de l'esprit de la laïcité. Je comprends qu'il n'y a pas que ça, mais ça reste quand même un élément central. Moi, je pense pas que toutes ces jeunes femmes se retrouveraient à sortir du réseau public. Je veux dire, la loi serait claire. À un moment donné, je pense qu'elles n'auraient tout simplement pas le choix si elles veulent intégrer les différentes écoles. Donc, sur l'aspect du rejet, je pense qu'il y a effectivement chez une partie de cette jeunesse une revendication identitaire qui est forte, un rejet des valeurs républicaines, un rejet littéralement presque un sentiment de supériorité aussi, de dire ben non, on trouve que ces valeurs-là, s'exposer, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose effectivement de sale, vous l'avez dit tout à l'heure, Céline Pignat. Alors nous, on a ces valeurs-là et je pense que donc cette revendication qui est très forte et ce rejet effectivement de cette laïcité, et ça va au-delà de ça. Et si je peux juste me permettre... Oui. Ça montre aussi à quel point je pense que en France, il y a une partie, oui, des politiques, mais aussi, on le voit dans l'éducation nationale, les gens sont terrorisés. On n'arrive pas à changer, à rendre la mémoire de Samuel Paty avec le nom du collège Samuel Paty. Il y a cette peur aussi des représailles islamistes. On le voit quand même. Il y a des professeurs qui décident de fermer les yeux.
Mais on verra, les professeurs, ils sont sondés. Les jeunes professeurs, à 20%, eux, ils ne voient aucun problème.
Parce que quand vous ne sentez pas qu'à l'autre niveau,
il y a quelque chose de générationnel et une contagion un petit peu des esprits autour de ces différentes questions. Mm-hmm. Il me reste 2 minutes avant de faire une pause JT. Je vous demande vraiment des interventions courtes, s'il vous plaît.
Je crois énormément à cette histoire générationnelle parce que effectivement, il y a un regard.
Alors ça, c'est pour après. Mais si vous voulez entamer.
De religiosité parmi et dans cette façon de s'habiller, etc. Parmi les musulmans, en l'occurrence les musulmanes. Mais c'est vrai des autres religions aussi. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui,
le différentiel est énorme entre les musulmans et les autres. Il est énorme.
Non, mais ce que je veux dire, c'est
pas n'importe quoi, Valérie.
Allez faire un tour dans les églises, vous serez très étonnés de voir.
On parle de l'école là.
Qu'il y a, oui, mais je suis en train de vous dire que avec la perte de sens de la société et le fait qu'aujourd'hui plus personne ne croit en rien. Mm-hmm. Il y a, je pense, dans les jeunes générations et chez les jeunes, un retour, et ce qu'a dit Jean-Sébastien tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, de recherche de spiritualité, de recherche...
C'est incomparable. Voilà. C'est incomparable, je vais vous dire pourquoi.
C'est
quelque chose qui est largement partagé dans les jeunes générations.
C'est juste
le problème, si vous voulez, c'est que vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les abayas, les crop tops, certains parlent même de la kippa, tout ça n'a aucun rapport. Les abayas, les voiles, obéissent à une idéologie suprémaciste qui vise, par l'occupation visuelle de l'espace public, à accomplir un projet politique.
Jean-Michel, le problème,
ceux qui ne sont pas, ceux qui sont en quoi, attendez, ceux qui portent des, celles qui portent des crop tops, elles sont pas là-dedans. Et même les juifs qui portent leur kippa, ils le portent pour eux. Si. Non, ils n'ont, le judaïsme n'est pas une religion prosélyte. Elle ne vise, il n'y a pas un projet politique de judaïser la France.
Valérie, je fais des grands signes parce qu'il est 23h.
C'est surtout qu'on a des chiffres.
Oui.
On pourrait peut-être les citer. Alors,
on les cite juste après le JT.
Moi,
23h pile. Vous ne vous inquiétez pas, on a encore une heure ensemble. 23h pile, Adrien Spiteri, le rappel de l'actualité.
Brigitte Macron a reçu la famille de l'INSEE aujourd'hui. Elle s'est dit très touchée. La mère de l'adolescente dit avoir été entendue et soutenue par la première dame. Je pense qu'elle va nous aider réellement, a-t-elle déclaré. Pour rappel, la jeune l'INSEE s'est donné la mort le mois dernier.
La loi de programmation militaire votée à une très large majorité à l'Assemblée nationale. Elle prévoit notamment une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans pour le budget des armées. Objectif préparer et moderniser les forces militaires. Sur Twitter, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a salué les 90 heures de débat. Et puis Mohamed Awas ne disputera pas la Coupe du Monde de rugby. Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, a appelé le pilier droit de Montpellier pour le prévenir. Mohamed Awas a été condamné la semaine dernière pour violence conjugale. Il a présenté ses excuses auprès des joueurs et du staff de l'équipe de France.
Alors, ce qui est intéressant également d'aborder, peut-être vos chiffres, Céline, puisque vous vouliez nous citer des chiffres, et ensuite je voudrais qu'on parle des mots et du tweet de Mathilde Panot rapport à la une du Parisien sur la Baïa.
Est allé trop vite, je ne les ai pas retrouvés exactement. Alors, mais c'était une étude, en tout cas, d'Olivier Galland et d'Anne Muxel sur les jeunes au lycée. Et qui montraient, et justement, ils ont essayé de faire la comparaison, puisqu'ils se sont posés cette question. Et ils ont interrogé donc des croyants, autrement dit, jeunes musulmans, jeunes catholiques et jeunes juifs. Déjà, la première chose, c'est la proportion de gens qui se disent croyants à l'intérieur du système. C'est très massif, les musulmans se disent très croyants. C'est, bien sûr, nous, on est complètement désécularisés, donc ce n'est pas le cas. Mais si on prend ceux qui croient, vous avez, par exemple, sur la question « doit-on faire passer les normes religieuses avant la loi de la République ?», vous avez un différentiel, c'était plus de 65% chez les jeunes musulmans, et à chaque fois qu'on le mesure, il augmente. Et quand on passait chez les jeunes catholiques, on était autour de 25%, par exemple. Et à chaque fois, on a les mêmes différentiels. Et c'est normal parce qu'en fait, les jeunes musulmans sont travaillés au corps. Il y a toute une théorie pour justement les radicaliser. On appelle ça la réislamisation. C'est ce qui se déroule sous nos yeux. Et on ne sait pas comment y répondre. Et on ne sait pas nous-mêmes transmettre des valeurs qui leur permettraient de résister.
Et pendant que nous en parlons et que le Parisien fait sa une sur ce sujet, non pas qu'ils ont décidé, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, pour rester dans le sacré, de faire cette une, mais parce que le ministre de l'Éducation nationale veut se ressaisir de ce sujet et a convoqué tous les recteurs d'académie, eh bien Mathilde Panot, elle en profite face à cette une pour rappeler que nous traversons une crise sociale sans précédent, une attaque massive des libertés sous Macron, une sécheresse ultra précoce et une guerre alimentaire qui se profile. Mais le Parisien fait sa une sur la tenue des femmes musulmanes.
Donc elle considère que c'est la tenue des femmes musulmanes. C'est ça qui est délirant dans le raisonnement de
Mathilde Panot. Elle stigmatise et attise la haine, là.
L'islamophobie fait vendre, c'est assez scandaleux. Il n'y a rien d'anodin dans ce tweet, en fait. C'est du clientélisme pur et ça met en danger nos confrères du Parisien parce que l'islamophobie dans ce pays, elle tue d'abord ceux qui en sont accusés.
Mais surtout que l'islamophobie est un concept qui ne devrait même pas exister. Qu'est-ce qu'on dit ?
C'est pas le sujet.
Ben si, c'est le sujet.
Je voudrais qu'on agisse sur Mathilde Panot.
Précisément, Mathilde Panot, elle emploie ce concept qui a été développé et par les islamistes et repris par une partie de la gauche radicale. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'islamophobie? On mélange deux concepts en un. On mélange le racisme et on mélange le droit de critiquer une religion. On peut parfaitement critiquer l'islam, le Coran, comme on peut critiquer la Bible, le judaïsme, tout ce que vous voulez, chamanisme, bref, l'hindouisme, tout ce que vous voulez. Ça n'est pas la même chose que de critiquer les musulmans, les catholiques, les chrétiens, les juifs, ou d'ailleurs des assignations parce qu'on considère que les gens ont une tête à avoir telle religion.
On rappelle quand même, Madame Panot, aussi, que c'est à cause de cette type d'accusation que d'autres journalistes ont été tués, que Samuel Paty a été décapité.
C'est d'autant plus grave que c'est une accusation qui ne devrait pas exister. Bien sûr qu'il y a des discriminations, bien sûr qu'il y a du racisme, mais mélanger les deux, c'est exactement la rhétorique des islamistes qui considèrent qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam ou Mahomet ou je ne sais quoi. Je ne dis pas que c'est particulièrement utile de le faire en soi. Mais c'est un droit comme un autre, au même motif qu'on a le droit de critiquer le libéralisme, Marx ou je ne sais qui.
Écoutez, pour rétablir un petit peu l'ordre sur ce plateau et l'ordre des passages, surtout des uns et des autres. Sabrina Agresti-Roubache, qui est députée Renaissance, qui est d'origine musulmane, qui a réagi à ce tweet de Mathilde Panot. Écoutez-la.
Elle n'est pas musulmane, elle ne sait pas de quoi elle parle, forcément. Elle n'a jamais, connu le moindre fait, elle, que ce soit de discrimination. Elle ne sait pas. Enfin, vous savez, Elle peut raconter ce qu'elle veut parce que ça fait vendre, elle peut expliquer que c'est... Vous savez, moi je suis de confession musulmane et je refuse justement qu'on vienne m'expliquer avec la tradition qui est la mienne, la culture, l'éducation que moi j'ai reçue, m'expliquer ce que c'est une abaya. J'ai pas besoin de Mathilde Panot pour le savoir. D'accord, ma grand-mère me l'a expliqué, ma mère me l'a expliqué, mes tantes me l'ont expliqué. Donc moi, ma mère est née en France et mon grand-père arrivait d'Algérie. Et pourtant, ma grand-mère ne portait pas de abaya et pas de voile. Donc à un moment donné, elle est responsable de ses propos. Et je pense que c'est tellement démago, tellement grave, tellement populiste de dire ça. Elle parle à son électorat. Elle parle à un électorat pour essayer d'expliquer la liberté des femmes. Non, mettre un voile et mettre une abaya, quand on va à l'école... Ce n'est pas dans les règles de la République.
Voilà, Sabrina Agresti-Roubache qui est de confession musulmane. Je voudrais juste préciser une chose pour nos téléspectateurs, parce que c'est vrai que dans l'infographie qu'on vous montre, c'est purement technique, le texte est trop long, donc on ne le voit pas sur l'infographie qu'on vous montre à l'antenne, mais la fin du tweet de Mathilde Panot, c'est, envers nos confrères du Parisien, c'est « l'islamophobie fait vendre ». Voilà ce que dit Mathilde Panot. Je préfère préciser, parce que ceux qui n'auraient jamais lu ce tweet se disent « mais de quoi il nous parle ?» puisque ce n'est pas écrit. Si c'est écrit, c'est juste que... Techniquement, nous n'avons pas pu l'afficher. Voilà, donc c'est ce qu'elle dit. C'est très grave. C'est une accusation. C'est une cible dans le dos qu'elle met à nos confrères du Parisien.
Non, mais oui. Quand Mathilde Panot, Madame Agresti-Roubache dit, elle fait du populisme et du clientélisme. Bah, il faut juste savoir que le 70% de l'électorat musulman s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Donc,
étant allé voter.
Donc, ceux qui sont allés voter, oui, bien sûr, ceux qui sont allés voter. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle envoie évidemment des signes, elle envoie des cartes postales à cet électorat dont on sait que la France insoumise et la gauche radicale, de manière générale, a troqué l'électorat populaire et ouvrier français contre un électorat immigré et plutôt musulman. Donc, ça n'est pas étonnant. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, et je terminerai par là, c'est pourquoi, en fait, Madame Agresti-Roubache parlait de ses aïeux, pourquoi les mères et les grands-mères de celles qui portent aujourd'hui les abayas n'en portaient pas il y a 30 ou 40 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elles étaient de moins bonnes musulmanes que leur progéniture? Ou est-ce qu'il y a eu une mise à jour du Coran où aujourd'hui on dit que c'est obligatoire?
Et c'est justement le sujet vers lequel je veux vous emmener. Écoutez un dernier extrait de Jean-Paul Brigelli, son ancien enseignement, cet ancien enseignant marseillais, donc qui parle là de... Il a des mots, encore une fois, extrêmement forts pour lui, c'est de l'aliénation pure pour ces jeunes filles.
Toutes ces gamines habillées avec les abayas sont poussées. Elles vous disent en permanence qu'elles sont libres de s'habiller comme elles veulent, mais c'est le principe même de l'aliénation. On se croit libre au moment où on est totalement esclave. Voilà. Donc, c'est l'objectif, l'honneur de l'école, d'interdire des vêtements qui visent en quelque sorte à fragmenter l'unité nationale, à fragmenter l'unité culturelle. Il n'y a pas de culture autre qui serait une culture islamique. Soit nous avons une culture républicaine, soit, je vous le dis, demain il y aura une guerre civile.
Il va très très loin. Hein. Le problème principal, je voudrais qu'on entre vraiment dans ce sujet qui est le sujet de fond, qui est le sujet pas de recul, qui peut vraiment nous aider à comprendre ce phénomène. Est-ce que le problème principal, c'est pas que la France, le modèle occidental en général n'évoque plus rien à une partie des jeunes? Je vais aller au bout de mon propos, si même moi je suis coupé. Quand on entend par exemple donc ces jeunes qui veulent ces élus, là je fais référence par exemple à Monsieur Piolle qui veut changer le calendrier avec les fêtes chrétiennes pour en créer des laïcs. Ce qui arrive d'autres cultures, la population qui arrive d'autres cultures, qui est plus solide, nous regarde avec des yeux écarquillés en disant ces gens-là ne se font pas confiance. C'est une civilisation qui est en perdition. Nous n'avons rien à nous rattacher. Il n'y a rien. On n'a pas envie de s'agréger à ça. La France est à l'épreuve et c'est la situation que nous vivons actuellement.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Julien. C'est-à-dire le problème, c'est la perte des valeurs. C'est ce dont on parle très régulièrement sur ce plateau. C'est-à-dire l'exemple que donnaient les parents à leurs enfants, ce qu'on apprenait à l'école, l'éducation civique, le respect de son pays, le respect de son histoire.
Le modèle occidental s'écroule.
La connaissance de son histoire. Le monde occidental est très fortement attaqué et c'est tout l'enjeu.
Mais s'écroule un peu tout seul aussi.
Vous allez dire je saute du coq à l'âne, mais c'est tout l'enjeu de ce qui se joue entre l'Ukraine et la Russie en ce moment, et c'est pour ça que ça passionne autant les gens. C'est que il y a la Russie qui est sur une espèce d'axe des dictatures avec un certain nombre de pays qui sont à ses côtés. La Chine, l'Irak, etc., enfin l'Iran, etc. Et il y a des démocraties occidentales qui sont en perte de puissance, qui dans la force vitale diminue, dont le mode de vie n'est plus respecté, qui alors, est attaqué.
Je voudrais juste.
Oui,
mais moi aussi j'ai un truc important à dire.
Ok. Alors, je reprends après.
Vous reprendrez après. Je vais créer une parenthèse. Je vais interrompre notre débat parce qu'il y a un enfant qui a été enlevé et je voudrais donc lire avec vous cette alerte enlèvement qui vient de nous être envoyée et on poursuivra nos débats juste après. Malek Younes est une petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés. Pardonnez-moi, Régie. Alors, donc je ne dois pas lire le texte, je dois lancer le rappel de cette alerte enlèvement. On regarde ça ensemble.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
Voilà pour cette alerte enlèvement que nous vous rediffuserons évidemment très régulièrement tant que la situation l'exigera, comme c'est le cas à chaque fois. Nous reprenons
c'est
nos...
Très important, nous,
c'est très important.
Cette alerte enlèvement, parce que vous savez que très souvent, grâce à ça, on arrive à retrouver les enfants qui ont été enlevés. Donc c'est très important. Non, je voudrais revenir donc sur ce modèle occidental qui est attaqué.
Oui, nous en étions là. La France est à l'épreuve.
Il est attaqué à plusieurs titres. Il avait été attaqué pendant les attentats et par les actes terroristes, justement parce que les terroristes considéraient que dans notre pays, les gens d'origine musulmane vivaient de façon trop débridée ou pas conforme à ce qu'ils pensaient être leur loi propre à eux. Et donc, ils ont essayé d'attaquer notre modèle. Le terrorisme, heureusement, a été quand même en partie contrôlé. Aujourd'hui, il se joue avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, soutenue par le monde occidental, d'un côté, une autre défense du monde occidental.
L'exemple est intéressant, Valérie, mais ça a commencé il y a bien plus longtemps que ça. Et c'est la guerre en Ukraine est loin d'être la seule explication.
Ça a révélé une autre forme. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que la démocratie occidentale est capable ou pas de juguler un certain nombre de menaces par des gens qui ont des opinions très affirmées, que ce soit la Russie quand elle envahit l'Ukraine,
vous allez trop loin. Je vais vous dire franchement, vous allez trop loin.
Ou que ce soit les musulmans quand ils portent la baïa.
Moi, je parle à cette jeunesse. Je pense. Là, c'est une analyse. Non, mais c'est très intéressant, Valérie. Sans vraiment vous manquer de respect, je voudrais juste là où je veux vous emmener. C'est nos jeunes qui préfèrent, ces jeunes qui préfèrent mettre des abayas, se retourner vers de l'obscurantisme plutôt qu'épouser le mode de vie du pays dans lequel ils vivent. Valérie, vous venez de faire un monologue de 3 minutes, donc si vous voulez.
Leur idéologie est plus forte que la nôtre.
Non, mais c'est. Alors.
Biologie.
Leur idéologie.
Ah, j'ai eu peur.
Le problème, si vous voulez, c'est que le discours, votre discours sur la perte de valeurs, etc. Moi, j'ai souscrit.
Est-ce qu'on a raté quelque chose ?
Mais le problème, c'est qui a déclaré la France pays ouvert identitairement ? Qui a bradé l'identité française ? Qui a dit il n'y a pas de culture en France ? Il n'y a pas de culture française. Donc, quand vous avez un système pendant 40 ans qui transforme la France en désert identitaire, qui démantèle toutes les valeurs dont vous parlez, c'est-à-dire d'autorité, d'ordre, de morale, d'éthique, etc., d'appartenance à la France, de transmission, d'enracinement, pour créer une société fluide, d'accord, sans frontières géographiques, sans frontières sexuelles, sans frontières entre rien, eh bien, effectivement, vous avez sur ce désert identitaire qui a été organisé par nos élites, eh bien, poussent des ronces alter-identitaire, parce que la nature ayant horreur du vide, vous savez, les gens ne veulent pas mourir pour leur iPhone. On meurt pour un drapeau, on meurt pour un idéal, on meurt pour une appartenance. Qu'est-ce que la France, des gauchos-progressistes qui gouvernent depuis 50 ans, qu'est-ce qu'elle offre à ces gens ?
C'est pas les gauchos-progressistes
On a appris à toute une génération à répondre à la question « Qu'est-ce que la France connaît pas ?» Très bien. Si la France, vous ne la connaissez pas, eh bien, on va connaître l'islam, le monde arabe, etc. C'est
Céline Pina.
On a un souci, c'est
L'école qui a failli, et l'école a failli dans la transmission de codes. C'est ce que disait très bien Jean-Sébastien tout à l'heure. À partir du moment où vous êtes censé entrer dans l'école, on ne va pas simplement vous transmettre des connaissances, on va vous transmettre une manière d'être, un certain nombre de valeurs. Et les valeurs qui fondent notre contrat social, qui sont des valeurs à la fois démocratiques et républicaines, déjà la première, c'est l'égalité. On n'a pas le droit de vous refuser l'égalité, que vous soyez homme, quelle que soit votre origine, votre couleur de peau, etc. C'est exactement ce que l'islamisme refuse, et l'islam aussi. Donc on a en fait aujourd'hui un affrontement entre deux zones culturelles dont l'une est très fière de ce qu'elle est, même si les conditions qu'elle offre à sa population sont tellement dramatiques que les gens s'en vont, même si alors que l'Algérie, le Maroc devraient être des pays de cocagne, il y a beaucoup de richesses, il y a une belle jeunesse, ils devraient nous enfoncer complètement, mais c'est leur manière d'être, c'est cette religion qui pèse sur tout, c'est cette espèce d'emprise totale, ce mélange entre vie privée et vie publique qui fait qu'ils n'arrivent pas à se développer. Nous, on est arrivé à se développer, mais c'est comme si on était trop dans le confort. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va.
Alors, vraiment, dernier mot, parce qu'il nous reste 24 minutes et je ne suis pas sûr qu'on aille au bout de tous les sujets qui étaient prévus.
C'est une responsabilité accablante des élites françaises, effectivement, qui ont voulu déconstruire l'identité française et que, voilà. Alors qu'une partie de la gauche, c'est son projet de toute façon, hein, parce qu'il ne croyait pas à la nation, donc pourquoi pas, mais la droite, la lâcheté de la droite, qui a accepté de se laisser traiter de raciste, de crypto-fasciste, d'islamophobe, etc., dès qu'elle disait quelque chose, et en plus, on a fini par tout mélanger, parce que regardez, on pourrait très bien tolérer, moi, ça ne me dérangerait pas de voir que quelqu'un est musulman, ça ne me dérange absolument pas de voir une main de Fatma ou de voir une étoile de David, ou je m'en fiche éperdument, parce que ça n'est pas parce que vous signalez éventuellement discrètement votre identité que vous êtes porteur d'un projet politique, parce que c'est bien ça qu'il faut rappeler. Oui, oui. L'islamisme, c'est un projet, et nous l'avons dit les uns et les autres, c'est un vrai projet de domination.
C'est un suprémacisme.
Sauf que souvent, la gauche et même une partie de la droite a considéré que dénoncer ça, c'était en réalité s'en prendre aux musulmans. Et cette confusion-là, elle est absolument catastrophique, parce qu'il y a un certain nombre de musulmans, comme par ailleurs, ils sont exposés, oui, à des discriminations économiques, sociales, tout ce que vous voulez, ils ont fini par mélanger les deux. Et cette confusion-là, elle est tragique, et moi j'en veux énormément à tous ceux qui l'ont entretenu au premier rang, desquels ceux qui l'ont fait en étant à droite.
Il faudra voir les actes, donc, puisque le ministre de l'Éducation nationale se veut ferme face aux pressions communautaires dans certains quartiers, dans certaines écoles. On verra les réponses dans les semaines ou les mois qui viennent.
Oui, mais ils sont encore accusés, c'est encore le procès d'islamophobie, si on regarde le tweet de Mme Panot. Et ça vient en plus des professeurs aussi, des directeurs d'école qui ont besoin d'avoir une directive. Donc si tout de suite on nous planque le procès.
Et je rappelle que 20% des jeunes enseignants sont favorables au port des vêtements de ce type, donc je suis pas sûr qu'on en sorte un jour, c'est ça la vérité. Bon, allez, l'INSEE dont on parle beaucoup et a raison depuis plusieurs jours, après avoir été reçu et déçu par le ministre de l'Éducation nationale, les parents de l'INSEE qui s'est donné la mort parce que harcelé, étaient reçus par Brigitte Macron aujourd'hui au Palais de l'Élysée, en compagnie également de leur avocat, Maître Debuisson. Ils attendaient du concret, du pragmatisme par rapport à une situation qui se produit trop souvent en France. Il voulait surtout être compris cette fois. Et a priori, ça a été le cas à l'aune de ce que nous dit la maman de l'INSEE, Betty. Écoutez-la, ainsi que son avocat.
Aujourd'hui, je me sens un peu mieux. Le fait que j'ai été écoutée, j'ai été entendue. Et Madame Macron, c'est une femme qui est très, très touchée par cette histoire. Elle me l'a fait ressentir comme ça et c'est une femme vraie. Elle le dit qu'il y a une erreur quelque part, que c'est... tout ce qu'on dit en fait quand on a demandé de l'aide, qu'il n'était pas là, elle reconnaît que oui, ils ont une part de responsabilité.
C'était une conversation entre une maman et une autre maman, même si l'avocat était là, bien sûr, mais ça a commencé comme ça, ça s'est terminé comme ça. Et je crois que ça a une vertu thérapeutique, puisque pour la première fois, la maman de l'INSEE m'a dit avoir senti être écoutée, avoir été écoutée. Et donc c'est forcément quelque chose de très positif. Et ce qui a été dit, c'est que ça permet d'atténuer un petit peu toutes les énormes anomalies, les dysfonctionnements majeurs de toute l'éducation nationale, ou en tout cas d'une partie de l'éducation nationale, qui s'est montrée en dessous de tout à travers cette affaire abominable. On va reparler de l'académie, du responsable de l'école, d'une partie du corps enseignant qui ont tous tourné le dos à l'INSEE et à sa maman quand elles appelaient au secours. Elle s'est excusée pour ça et je crois que ça fait du bien à Betty.
Ça veut dire que la dernière fois, c'était pas une conversation entre une maman et un papa ?
Ça n'a pas du tout été ressenti comme ça d'un point de vue humain, ça arrive.
Brigitte Macron a réussi ce que Pape Ndiaye a échoué à faire. Oui, Karima, je voulais y réagir.
Ben, au moins, on se dit ça a fait du bien à la famille. Ils se sont sentis pour une fois écoutés. Le problème, c'est que en termes d'application de loi, en termes d'action, Brigitte Macron, je veux bien qu'elle tende la main, mais concrètement, elle peut pas faire grand-chose. C'est ça le problème. Donc, j'ai l'impression qu'on envoie un peu, c'est la bouée de sauvetage. On fait une belle opération parce qu'on a vu en fait le fiasco avec M. Pape Ndiaye et on essaie de colmater un petit peu là, les brèches, les problèmes de tout ça. Mais je pense que ça va prendre beaucoup plus qu'une main tendue.
Elle est sortie tellement déçue l'autre jour. Les mots étaient forts. Hein. Elle était très sévère. Le papa, enfin le beau-père, pardonnez-moi. Et la maman était très sévère. Moi, j'avais pas souvenir d'avoir entendu des mots aussi mm-hmm. forts, aussi durs à l'encontre d'un ministre même... après une rencontre. Non, mais sur le fait de ne pas avoir été entendu, pas été compris, sur le fait de ne pas avoir vu de sincérité dans les yeux du ministre. C'était très sévère.
Mais ça, c'était important.
Et là, elle a été entendue et comprise. Valérie, c'était important.
Le casting de Brigitte Macron était extrêmement bien choisi.
Elle ferait peut-être une meilleure ministre de l'Éducation nationale que Pape Ndiaye.
C'était une bonne idée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est mère et que c'est quand même la perte d'un fils. Donc, il y a quelque chose qui s'est créé.
Une fille, en l'occurrence.
Deuxièmement, elle a été quand même prof pendant un nombre d'années incalculable. Troisièmement, on sait très bien que ça reste une priorité pour elle et que l'éducation nationale reste et qu'elle inspire énormément le président sur ces sujets-là. Elle est complètement... Je veux dire, elle a de l'influence sur son mari, oui. Brigitte Macron. Elle a une grosse influence.
La preuve,
et là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, elle est légitime parce qu'elle le connaît bien.
L'annonce.
Et donc, tant mieux, au moins.
Mais on est deuxième quinquennat quand même, et les actions, non, mais on voit qu'il y a des
problèmes
sur la politique.
Je trouve ça un petit peu humiliant pour Pape Ndiaye de voir que Brigitte Macron fait le service après-vente d'une ministre de l'Éducation nationale.
Mais l'Éducation nationale, on en est à 6 ans, mais on en est à 30 ans ou 40 ans, je veux dire. Ça fait des années que ça dure.
Merci. L'annonce à retenir, quand même, parce qu'il y a une annonce qui a été faite par le biais de Maître de Buisson, c'est qu'une réunion interministérielle est à venir sur la question du harcèlement. C'est ce qu'il en ressort de cette rencontre également. Bon, il va falloir agir vite et agir fort, puisque ça concerne quand même environ 1 million d'enfants harcelés régulièrement dans notre pays. Jean-Michel et Céline Pina.
C'est-à-dire qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. Il s'agit de parents qui ont perdu leur fille alors que toute l'administration scolaire était au courant de ce qui se tramait.
Scandale absolu.
Donc si vous voulez, quand les parents rencontrent le chef de file de cette administration scolaire, qui est le ministre de l'Éducation nationale, et qu'ils ne trouvent pas les mots, ou en tout cas, ils n'ont pas pu apaiser leur douleur d'une certaine façon, ou même se sentir compris, nous avons affaire à un nouveau naufrage symbolique, cette fois, en plus du naufrage de la tragédie de la mort de l'INSEE. Donc quand... Effectivement, Brigitte Macron, dont on connaît le combat pour cette cause, c'est-à-dire la lutte contre le harcèlement, on la sort. C'est effectivement, c'est ça qu'il faut comparer. Je vous rejoins là-dessus. On la sort pour pallier, si vous voulez, la catastrophe qu'était l'entretien avec Pape Ndiaye. Mais le problème, c'est que sur l'action, qui gère ce dossier, in fine, c'est quand même Pape Ndiaye. Donc, qu'il y ait un rattrapage symbolique par Brigitte Macron, il est tout à fait le bienvenu et je pense que les parents l'ont apprécié. Mais sur la durée et sur les actions à entreprendre, si le ministre de l'Éducation nationale ne s'est pas passé un coup de fil, je ne vois pas comment il pourra prendre ce dossier à bras-le-corps.
Écoutez, Maître de Buisson, qui a voulu mettre l'accent également, parce que je crois que le ministre chargé du numérique était présent aussi aujourd'hui, sur les réseaux sociaux qui font partie, qui en partie expliquent les passages à l'acte et ces harcèlements qui durent dans le temps et qui anéantissent ceux qui en sont victimes.
Nous avons évoqué avec le ministre du numérique toutes les difficultés qui sont liées aux réseaux sociaux qui aujourd'hui ne collaborent pas du tout avec les autorités françaises et même au niveau européen, toutes les mesures qui vont être mises en œuvre, notamment en termes de bannissement de certains réseaux sociaux de pays, de taxation de pourcentage de chiffre d'affaires en cas de violation des obligations de modération. Ce sont des choses qui ont été proposées, qui semblent être tout à fait encourageantes. Ce qui ressort quand même clairement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force entre l'État français et ses réseaux sociaux, que ces réseaux sociaux ne veulent pas collaborer, qu'il n'y a pas de coopération, ou en tout cas pas suffisamment de coopération. Mais la conclusion de ces 2 heures de rendez-vous, c'est une prise de conscience qui paraît réelle, profonde et qui fait écho à ce qu'a dit la Première ministre hier. Donc nous espérons que cela va aboutir sur des mesures concrètes.
Jean-Sébastien Ferjou, qui est sur cette question, et Céline, je vous laisserai compléter.
Oui, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois depuis le début de cette histoire-là. Malheureusement,
et c'est intéressant de voir que ça peut, qu'il y a quand même une, cette relation entre différents ministères qui pourrait aboutir à quelque chose d'un petit peu plus sérieux
et pragmatique sur le harcèlement. Les choses, parce que c'est aussi un enjeu technique, parce qu'on peut dire on veut des règles comme on veut empêcher les mineurs d'accéder aux sites porno. On a voté une loi, sauf que la solution technique, elle n'existe pas. Donc on dit aux acteurs en question, respectez-la, et quand ils disent mais quelles règles, on ne sait pas. Donc c'est pas très utile de fixer des objectifs qui ne sont pas concrets ou qui ne sont pas atteignables. C'est pour ça que je vous dis que le vrai rapport de force avec les réseaux sociaux, ça doit être sur les algorithmes eux-mêmes, parce que ce sont eux qui poussent les contenus les plus dommageables, pas uniquement en termes de harcèlement, mais aussi sur la santé mentale, parce que après,
on a eu le débat ces derniers jours ensemble, Jean-Sébastien. Moi, c'est vrai que je réponds souvent que l'anonymat semble être la chose la plus importante.
C'est vraiment une mauvaise question, mais on va pas refaire
ce débat. Oui, on va pas la refaire, mais pour le refaire, pour nos téléspectateurs, celui qui insulte, s'il est identifiable, identifié, il ne tiendra pas ses propos, j'en suis convaincu.
Non, déjà, c'est faux, parce qu'il y a des gens qui insultent à visage découvert sous leur vrai nom. Et deuxième point, le vrai sujet en matière d'anonymat, c'est le pseudonymat. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir identifier. C'est-à-dire que si vous avez une décision de justice ou vous êtes victime de harcèlement, le réseau social doit pouvoir communiquer l'identité de celui qui harcèle. Mais il y a des tas de gens qui ont besoin d'anonymat.
Il faut que le réseau joue le jeu.
Pour ne pas être exclu tout simplement de leur milieu professionnel. Parce que sinon, ils le sont. Et notamment en éducation nationale, d'ailleurs, si vous avez le malheur d'être un peu à droite, je sais pas quoi. Bref, mais ce que je voulais vous dire, c'est que indépendamment du sujet des réseaux sociaux qui est majeur, je l'ai répété je ne sais combien de fois depuis le début, de cette tragique affaire, il y a aussi l'état tout simplement de nos enfants et de nos ados. Quand vous regardez les indicateurs sur la santé mentale, ça c'est notre société, mais c'est peut-être dans le fil de la conversation qu'on avait avant, sur le vide spirituel de notre société, l'état des ados et des enfants plus jeunes. Enfin, réellement, les psychiatres sont inquiets. Quand on regarde tous les indicateurs
sur Maurice Berger,
la prescription d'anxiolytiques chez les mineurs est en train d'exploser. Nous sommes une société qui ne sait pas donner envie de vivre à ses enfants. Alors, les réseaux sociaux en rajoutent une couche, mais et d'ailleurs, ça n'est peut-être qu'un symptôme.
Ça rejoint presque
le premier rang. Nous sommes une société qui ne sait plus ni protéger ses enfants, ni donner du sens à leur vie.
Céline. Parce que la quête de sens, c'est quand vous êtes jeune, vous pouvez jouir de vous-même. Tout est nouveau, toutes vos sensations sont fortes, elles sont intenses, et ça vous emmène dans un tourbillon. Et c'est très bien, c'est là une période qui est là pour ça. Ça ne dure pas. Ensuite, c'est ce qui vous construit, qui va vous permettre dans la durée d'être au monde, en fait de trouver votre place. Qu'est-ce que vous faites ? On a des jeunes aujourd'hui qui ne lisent pas. Vous vous construisez par la lecture, parce que c'est une maturation lente. Vous vous construisez en agissant avec les autres, en faisant des choses ensemble. C'est comme ça que vous tissez des liens. Ce n'est pas en jouant à FIFA, en étant connecté. Et en fait, aujourd'hui, on a des enfants qui bougent de moins en moins, qui se voient de moins en moins et qui ont des copains virtuels, qui jouent par écran interposé, qui ne lisent plus, qui ne prennent plus le temps et qui, une fois qu'ils ont cessé de jouir d'eux-mêmes, se retrouvent effectivement devant un vide abyssal. Mais la question, c'est pourquoi les adultes ne le
perdent rien. L'empathie aussi. Oui. Très important.
Mais oui, mais parce que...
c'est pour ça que je me permets de compléter, parce que ça va ensemble. Tout est lié.
Mais quelque part, nous, on n'a pas eu cette éducation-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien transmis ? À quel moment est-ce que la rupture s'est faite et à quel moment
on a dit que les conservateurs étaient des grands méchants alors
mais
que
parce qu'il y a de plus en plus d'adultes
les progressistes
parce qu'on peut se regarder en face aussi non on peut se regarder en face aussi et se dire qu'il y a de plus en plus d'adultes qui sont juste de grands enfants
parce qu'on a déconstruit les valeurs ça doit être une ligne de crête en tension on a besoin de progrès comme on a besoin de préserver un certain nombre d'héritages et de valeurs on a totalement renoncé à la jambe héritage
23h30 quasiment on va faire un dernier JT dans ce soir info qui va commencer évidemment par cette nouvelle alerte enlèvement dont vous voyez le contenu en bas de l'écran mais qu'on va vous redonner parce que c'est évidemment très important le JT avec cette alerte enlèvement donc.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
«
Yael Braun-Pivet va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation des 64 ans programmée demain dans l'hémicycle. La présidente de l'Assemblée nationale dit appliquer la règle, rien que la règle. Le reste de la proposition de loi portée par le groupe Liot pourra quand même être examiné. La gauche dénonce un coup de force inacceptable. Un trafic international de stupéfiants démantelé. Il se situait entre l'Espagne et le sud de la France. 9 personnes ont été écrouées. Certaines personnes sont connues dans le narco-banditisme. Près de 2 tonnes de cannabis ont été saisies, selon la justice. Et puis direction les États-Unis pour Lionel Messi. La star argentine va signer à l'Inter Miami, un club qui appartient en partie à David Beckham. Le septuple Ballon d'Or a annoncé son transfert à la presse espagnole. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas heureux à Paris.
Non,
enlève-moi.
Non. De retour pour Soir Info. Ils sont très dissipés, très bavards ce soir. Il nous reste une dizaine de minutes pour évoquer cette médiathèque d'un quartier sensible de Nîmes qui est fermé. Fermé pourquoi ? À cause du trafic de drogue. Les agents de la médiathèque subissent depuis plusieurs mois de la pression, des pressions de la part des trafiquants. Les autorités ont décidé de réagir. La CRS 8 devait arriver en renfort aujourd'hui. Sur place, les explications, Vincent Fernandez avec leur para.
À peine arrivée à Nîmes, la CRS 8 prend possession du quartier Pissevin. Contrôle, fouille, le chien renifleur est attiré par le sac d'un jeune homme. À l'intérieur, du tabac et des résidus de cannabis, le gendarme le verbalise.
Mais il n'y a pas de consommateur. Si ça, il y a des résidus, vous êtes consommateur.
Oui, vous êtes consommateur, c'est une AFD pour consommation.
Ce secteur sensible est gangréné par le trafic de drogue. Les prix des stupéfiants vendus sont même affichés sur certains murs du quartier. Depuis plusieurs mois, la pression s'est accentuée pour les habitants et les personnes qui travaillent ici, à tel point que la médiathèque a dû fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. Les salariés de l'établissement étaient fouillés avant d'entrer dans le quartier. Ils ont même été filmés et photographiés au travail. Une situation intenable pour cette habitante.
Il y a les dealers qui sont partout, là, moi je les vois tout le temps. Moi je veux sortir d'ici, mais c'est aucun souhait, je souhaite. Je reste, c'est un rêve pour moi. Chaque fois on entend des Kalachnikovs, des trucs. Moi j'ai peur.
L'intervention de la CRS 8 apporte déjà des résultats, selon Jean-Pierre Sola, commissaire général.
On a interpellé donc un individu avec des stupéfiants. On va réaliser un certain nombre d'amendes forfaitaires délictuelles par rapport à la détention donc de stupéfiants. Et même un individu avec une fiche de recherche qui a été donc interpellé.
La quarantaine d'agents de cette compagnie spécialisée dans les actions coup de poing en milieu urbain restera au moins jusqu'à lundi. La réouverture de la médiathèque n'a pas encore été annoncée.
Bruno Bartocchetti est avec nous pour évoquer ce sujet. Je l'en remercie. Bonsoir monsieur, porte-parole unité SGP Sud. Je vous donne la parole dans un instant parce que c'est votre secteur. Vous connaissez la situation mieux que nous tous ici. Je voudrais juste que vous entendiez un peu en longueur cette habitante qui habite non loin de cette médiathèque et qui déplore en fait sur la durée le changement de son quartier. C'est devenu un ghetto. Elle ne dit pas moins cette dame. Écoutez-la.
Depuis que je suis là, je souhaite que de partir d'ici. C'est sûr que j'ai 2 garçons qui ne sortent pas de la maison. Déjà, les profs, ils le savent. Hein. Ils disent mère poule, mais je ne suis pas mère poule. Je surveille mes enfants. Ils ne sortent même pas la poubelle. C'est moi qui fais tout. Il a 17 ans, il n'a pas de copain, il n'a pas de copine. Hein. Il ne sort pas la poubelle parce que j'ai peur. Ça a changé le quartier, oui. Je crois, hein. Moi, ça fait 17 ans que je suis là, quand même. Avant, j'étais sur Paris, mais ça a changé. Ça, de pire en pire, on entend de pire en pire... Les tirs, on entend de pire en pire quelqu'un qui est mort, un adolescent, un jeune. C'est malheureux hein, quand même. C'est très malheureux. On est où là? C'est un ghetto enfermé. Les gens sont un peu. C'est comme une. Comment dire? Comme le Vatican vit sur une petite ville ici. Il n'y a personne que tu ne peux pas fréquenter ou.
Bruno Bartocchetti, c'est terrible et c'est régulièrement qu'on entend ce type de discours d'habitants qui sont dans des quartiers sensibles, qui se sentent pris à la gorge, c'est le cas de le dire. Et là, donc, pour les agents de cette médiathèque, la solution pour les protéger, c'est de fermer. Franchement, c'est vu de l'extérieur, encore une fois, et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre, mais ça ressemble à un terrible échec, à un recul de l'État, tout simplement, encore une fois, j'ai envie de dire.
Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. C'est un échec...
malgré des résultats probants hein, en matière de travail, de police et de sûreté départementale qui démantèlent des réseaux, mais des réseaux qui restent des petits commerces, on va dire, puisque juste en préambule, vous avez parlé d'un démantèlement de stupéfiants à l'international, et c'est comme ça qu'on peut faire mal, justement, aux stupéfiants. À partir du moment où on touche le petit commerce, il renaît aussitôt. Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il faut donner beaucoup plus de moyens, bien sûr, aux enquêteurs pour travailler. Ensuite, comme ça a été dit, et comme vous le soulignez très justement dans ce reportage, aujourd'hui, on doit aller plus loin, on doit pénétrer davantage ces secteurs, ces cités. Je parle de la police, même si nous avons des patrouilles, c'est largement insuffisant. La CRS 8 qui arrive va donner des résultats sur 4-5 jours, mais après, on va retrouver notre quotidien. Donc, il va falloir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire nous donner les moyens pour aller beaucoup plus en profondeur, mais pour la sérénité de la population. Il y a deux sujets. Hein. Il y a démanteler les réseaux, ça c'est une chose, et c'est plutôt invisible au vu de la population. Il y a aussi les sécuriser, donc il faut être beaucoup plus présent et nous permettre...
Et comment, vous dites, pardon de vous couper Bruno Bartoschetti, mais vous dites la CRS 8, elle va rester 4-5 jours, ça va aller pendant ce temps-là, et ensuite il faudra aller plus loin. Mais c'est quoi aller plus loin? Qu'est-ce qu'on répond à ces habitants? Comment on va gagner durablement cette guerre? En mettant du bleu à pied, dans les quartiers, tous les jours?
Absolument.
Parce que c'est ce qu'ils demandent, ces gens-là.
Ben, ils ont raison de demander. Nous aimerions répondre justement à leurs attentes. Seulement, même si nous avons eu des renforts à Nîmes, c'est largement insuffisant. Il faut aller... C'est pas parce qu'on va avoir en septembre prochain 15 flics de plus à Nîmes qu'on va résoudre le problème. Donc il faut vraiment aller plus loin, pénétrer ces quartiers avec des effectifs, être effectivement en voiture, à pied. Et je peux vous garantir qu'on va pouvoir sécuriser la population. Donc ça demande des moyens. L'État doit nous donner encore un peu plus de moyens pour cela. Mais il va falloir aller encore un petit peu plus loin, si vous le permettez. C'est de préserver le service public. Tout ne doit pas reposer sur l'îlotage ou les patrouilles pédestres ou à véhicules des policiers. Donc il va falloir sécuriser aussi les gens qui travaillent. Et on peut comprendre aussi la décision qui a été prise de fermer cette médiathèque, malgré notre présence. Mais quand je parle de notre présence, nous policiers, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Ils sont largement insuffisant. Après, il y a d'autres sujets, le plan d'urbanisation qui est à revoir. Bon, c'est des vastes sujets, mais j'insiste bien, c'est un sujet qui doit être vraiment travaillé sur du long terme, parce que cette bombe à retardement qui nous pète dans les mains aujourd'hui à Nîmes, comme à Montpellier, comme à Marseille, comme à Cavaillon, ça fait quand même des décennies que nous tirons le signal d'alarme. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, il y a tout ce chemin à refaire, avec le travail dans un premier temps de la police, bien évidemment, en se montrant présent, en permanence, et certainement pas donner l'impression que le territoire appartient à ces voyous qui, de toute façon, réagissent parce que nous sommes présents et parce que nous démantelons des réseaux, mais des petits réseaux qui renaissent aussitôt. Vous voyez, c'est quand même de l'à peu près pour l'instant. Il va falloir, j'insiste bien, et sur un plan judiciaire, et sur un plan de présence policière, beaucoup plus de moyens. Ça doit être la priorité aujourd'hui de notre État.
Il y a urgence, en effet. Merci beaucoup, Bruno Bartoschetti, porte-parole unité SGP Sud. Priorité, nous dit Bruno Bartoschetti. Priorité, il y a 10 minutes, on parlait du harcèlement. Priorité pour l'éducation nationale.
Mais peut-être qu'il y a un lien.
Je pourrais faire une liste de priorités qui nous amènerait jusqu'à la fin de l'émission.
Mais Julien, il y a un lien.
Et cette dame qui a des adolescents de 16-17 ans, qui ne veut même pas qu'ils sortent les poubelles. C'est une
merde. Mais Julien, il y a un lien qui est très clair, ça s'appelle l'autorité. On a renoncé à faire régner, avec l'autorité d'ailleurs il y a l'ordre, on a renoncé à l'ordre public, on a renoncé au principe même d'autorité. Donc en plus, envoyer la CRS 8, c'est...
Mais c'est 4 jours.
Mais voilà.
Et puis derrière, les problèmes restent, ils reviennent.
En soi, c'est...
Non,
c'est
il n'a pas fini.
C'est en soi une forme de renoncement intellectuel. Et il y a des quartiers qui, très clairement, ne sont plus, enfin, sont des zones de non-droit à temps quasi complet.
Mais ça, ils ne veulent pas totalement. Mais on n'a pas le temps d'entendre la préfète du Gard. Mais la préfète du Gard, tout à l'heure, chez Sonia Mabrouk, a dit mais non, ce n'est pas des zones de non-droit. Bruno Bartoschetti, alors, j'ai pas eu le temps de lui poser la question. Non, parce qu'on dit, on y rentre.
Il y a quelques jours à peine, pardon.
La vérité, c'est que c'est de l'appropriation de territoire.
Juste pour terminer, il y a quelques jours encore, il y a un homme d'origine, enfin, suisse de nationalité. Suisse qui est allé à Nîmes justement pour participer à je ne sais quel événement. On l'a pris pour un policier parce qu'il n'avait pas une tête à faire être du quartier, mais il était complètement.
Mais il y a un journaliste démoli. Également de M6.
J'en profite un journaliste de M6.
J'en profite pour dire il y a un journaliste d'M6 qui a violemment été agressé hier en reportage sur place. Trois personnes ont été placées en garde à vue. On pense à notre confrère donc. qui, comme le veut la formule, a passé un très mauvais moment, donc tabassé par des jeunes dans ce coin-là.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est désespérant et c'est dommage pour le journaliste.
Ah oui, c'est dommage, oui.
Mais pour revenir au témoignage de ce policier, je trouve que pour une fois, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Ce qu'il dit, pour une raison qui est pour une fois, c'est qu'au lieu de faire ce constat qui est toujours dramatique, qu'on fait tous et que les policiers font et que tout le monde fait, qu'on est dans des zones de non-droit et qu'il n'y a rien à faire, il trace un chemin pour essayer d'arriver à quelque chose. Et ça, je trouve que c'est pour une fois encourageant. Voilà, c'est là que je voulais dire pour une fois. Je trouve ça encourageant.
Mais on sait où on veut mettre la ligne d'arrivée, mais il faudrait savoir ce qu'on met sur le parcours.
Mais je trouve que quelqu'un qui a des responsabilités, qui visiblement est là depuis très longtemps, et qui dit on est sur le bon chemin et on va y arriver, moi ça me fait du bien d'entendre ça.
Allez, il nous reste 20 secondes, je ne sais pas qui veut dire un dernier mot. Jean-Messia, je vous vois lever le doigt.
Il y a effectivement la perte d'autorité généralisée dont parlait Sébastien Ferjou, mais il y a aussi quelque chose dont il faut parler, c'est la submersion migratoire qui effectivement aggrave tous nos problèmes.
Avec le dernier mot,
c'est le scoop de Jean-Messia.
Mais excusez-moi, mais les zones de non-droit dans ces quartiers, on enlève le problème migratoire, eh ben, on réduit quand même considérablement le problème. Les dealers, les mafias de la drogue utilisent les migrants, et en particulier les clandestins, et en particulier les mineurs isolés dont ils savent qu'ils échappent complètement.
Il faut s'attaquer aux filières et à ceux qui sont en haut de ces filières.
Donc, si vous voulez, l'immigration.
Parce que beaucoup de ces mineurs sont un peu otages de ces organisations criminelles.
Un certain nombre d'immigrations en provenance du sud de la Méditerranée aggravent considérablement tous nos problèmes à l'école, à l'hôpital, pour la police, pour la justice. C'est ainsi. C'est la vérité.
C'est la fin de ce Soir Info. Je ne vais pas vous quitter comme ça. Alors la dernière image, d'habitude, elle est faite pour sourire. Là, ce n'est pas très réjouissant. C'est très impressionnant en termes d'image, mais c'est surtout un phénomène écologique qui peut préoccuper. Vous savez qu'il y a des feux de forêt qui ravagent actuellement, et je pense à Karim Abric, notre Québécoise, à l'est du Canada. Et donc ce qui se passe à l'est du Canada, ces feux de forêt immenses bouleversent les habitants de New York. Les images de New York aux États-Unis, donc aujourd'hui, au lever du jour, vous avez vu ces couleurs, les New-Yorkais qui ont pu voir monter entre les gratte-ciel de Manhattan l'équivalent d'une boule de feu orange en guise de soleil. Tout le ciel était teinté de cette lueur rouge-orangée aujourd'hui, comme on peut le voir donc sur ces images qui, certes, sont magnifiques, mais sont loin d'être agréables et de bon augure pour le climat. La vision post-apocalyptique s'est accompagnée d'une brume très épaisse qui empêche de voir la cime des immeubles du centre-ville. La fumée des incendies au Canada a donc considérablement dégradé la qualité de l'air de New York. C'est encore le cas à l'heure où l'on se parle. Les autorités qui ont invité les personnes fragiles, comme les enfants, les seniors d'ailleurs, à rester chez eux.
La faute du boulot.
Et ça, regardez, tiens, nous sommes là. Alors, c'était des images enregistrées ce matin. Et là, ce sont des images en direct. Les agences, je pense que c'est l'agence Reuters là qui nous permet d'avoir, Reuters qui nous permet d'avoir ces images en direct de New York. Peut-être juste en 10 secondes, je ne sais pas si on peut se permettre 10 secondes de commentaires de Karima.
Non, mais c'est catastrophique. Et moi, je pense à mes compatriotes au Québec. En ce moment, il y a des pompiers. Vous pouvez imaginer, là, il y a tout un arsenal de gens qui sont là-bas à essayer d'éteindre ces feux. C'est une catastrophe écologique. Et ça nous fait penser, bien sûr, à ce changement climatique et quelle réponse on va donner à tout ça. Ce moment, il y a des gens qui luttent et c'est aussi une catastrophe même sanitaire parce que la qualité de l'air, elle est catastrophique.
C'est terrible, c'est de l'air toxique et c'est pour ça que je le disais, les autorités new-yorkaises qui déconseillent aux personnes fragiles, aux enfants, d'aller dehors ces prochaines heures et les heures passées.
Bon. Faute au boulot.
Si ça c'est pourrait faire prendre conscience aux Américains de la nécessité...
C'est la faute aux incendies. Surtout.
Si ça pouvait faire prendre conscience aux responsables américains de l'urgence climatique, ça serait un mal pour un bien.
Certes. Voilà pour ce petit bateau, là.
Voilà pour ce petit bateau.
C'est en direct, ça, Lumna, hein?
Le bateau plus loin de l'Island.
Je vais rentrer, Lumna, parce que je suis en retard, mais elle a pris son... Elle a pris son train. Merci les amis d'avoir participé à cette émission. Merci aux téléspectateurs. Merci donc à Lubna Daoudi qui prépare cette émission. Simon Guilin pour l'édition de la nuit. À demain, bonne nuit.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.